Bonjour et bienvenue sur Gameblog.fr pour votre rendez-vous hebdomadaire avec la rédaction de Gameblog et surtout les podcasts. Et oui, podcast 84 aujourd'hui, ça nous fait plaisir, surtout que c'est un podcast, vous allez voir, exceptionnel. Il s'agit d'une saga et pas n'importe laquelle, une saga exceptionnelle puisque elle s'intéresse à la quatrième console la plus vendue de tous les temps, tout simplement la Super Nintendo. Vous allez voir, ça va faire ressurgir des myriades de bons souvenirs pour nombre d'entre vous. Et pour en parler, bien sûr, je suis entouré autour de la table à repasser, la plus célèbre d'Internet désormais, de Julo, Angel, Raan, Caf, mais aussi d'un invité exceptionnel. Bonjour Florent, Florent Gorge. Tu es le rédacteur en chef de Pix & Love et pas un inconnu pour les amateurs des podcasts de Gameblog.
Bonjour, bonjour.
Ça va bien ?
Très très bien, merci. Merci de m'avoir invité une nouvelle fois.
Eh ben écoute, ça nous fait plaisir, surtout que tu es une sorte de mémoire vive hein, de tout le rétro gaming avec Pix & Love, avec justement l'édition de la dernière édition en date sur Sonic, qui s'appelle Sonic Extreme.
Ouais, exactement.
Tu peux nous en dire un petit peu plus ?
Bah, Sonic Extreme est un jeu développé par Sega of America qui malheureusement n'a jamais vu le jour pour des raisons plus ou moins obscures, et notamment des tensions entre Sonic of entre Sega Japon et puis Sonic of. Sega of America, voilà. Donc beaucoup d'anecdotes très sympas en fait sur un jeu qui malheureusement n'aura jamais vu le jour.
Ouais, comme d'habitude avec les Pix & Love, hein, c'est plus de 120 pages juste gorgées d'anecdotes, de belles images. C'est une machine à souvenirs hein, tout simplement, c'est juste la classe. Et d'ailleurs on en reparlera bientôt dans quelques semaines avec toi puisqu'il y aura une autre actualité au niveau des Pix & Love. On en reparlera dans quelques semaines.
D'accord.
Mais mesdames et messieurs, bah, surtout messieurs, hein, c'est dommage, je suis désolé, on va s'intéresser...
Il n'y a pas quelqu'un de caché sous la...
Bah,
la
non, ce serait bien, mais bon,
quelqu'un
non,
s'est fait opérer.
Pour l'instant non. On va s'intéresser à la Super Nintendo. La Super Nintendo, elle est née le 21 novembre 1990 au Japon, une période où Nintendo était tout simplement hégémonique. La NES, précédente console, c'était 92% de part de marché du jeu vidéo quasiment dans le monde, donc c'était absolument incroyable. Pourtant, attention, en 87, la PC Engine débarque et commence à faire peur à Nintendo. Et en 88, en octobre 88 au Japon, la Sega lance la Mega Drive, qui sera vraiment le gros duel, la Mega Drive contre la Super Nintendo. Mais avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, de vous expliquer en quoi cette console a été juste tout simplement exceptionnelle, a marqué les esprits à la fois techniquement mais aussi ludiquement, Florent, je crois que tu as d'ores et déjà quelques anecdotes sur la genèse un petit peu de cette machine.
Oui, parce qu'en effet, là tu viens d'expliquer qu'il y avait eu une rivalité entre la Mega Drive et la Super Nintendo. Bon, c'est assez vrai en fait aux États-Unis et en Europe, mais il faut savoir qu'au Japon, c'est vrai que Sega occupe une place prépondérante dans l'arcade, mais sur le... dans le domaine en fait des jeux domestiques, c'est absolument pas ce qu'il faut en fait. Et Nintendo a vraiment commencé à flipper à partir du moment où NEC s'est allié avec Hudson Soft, ou plutôt le contraire en fait. Et ont sorti la PC Engine.
Alors on va expliquer pourquoi, parce que NEC à l'époque, donc on est fin des années 80, début des années 90, c'est un poids colossal hein, au Japon.
Ah, c'est un poids colossal, hein. C'est sûr que bon, maintenant Nintendo a peut-être changé un petit peu la donne, hein, c'est le moins qu'on puisse dire,
oui.
Mais il faut savoir qu'à l'époque quand même NEC c'est très certainement l'une des plus grosses entreprises d'électronique du Japon et même du monde. Ils possèdent en fait à eux seuls plus de 50% du marché du PC au Japon.
Ah, c'est colossal.
Bon, évidemment c'était pas le nombre de PC d'aujourd'hui, mais c'était quand même colossal. Ils pouvaient dépenser mais des milliards de yens uniquement en recherche pour développer des processeurs. C'est une chose qui était impossible chez les développeurs, chez les créateurs comme Nintendo ou Sega. Donc c'était un poids phénoménal. Et Hudson Soft, eux, c'était aussi un paquet de millions de sellers en fait uniquement sur la Famicom, le premier véritable éditeur tiers.
La Famicom, hein, on rappelle juste, c'est ouais. La NES au Japon.
Exactement. Donc c'était non seulement un génie du hardware qui s'alliait avec un génie du software. Donc quand en 87 NEC a sorti donc sa PC Engine et ont commencé à montrer en fait de quoi ils étaient capables avec le CD-ROM.
Ouais.
Notamment et les images que ça pouvait, les possibilités que ça offrait, Nintendo et notamment son président ont un peu flippé. Ils se sont dit là, si on s'y prend pas, si on se dépêche pas, en fait, on risque de se retrouver un petit peu comme tous les autres créateurs de PC au Japon, c'est-à-dire se faire manger par NEC.
Ouais.
Et donc Yamauchi a convoqué la presse en disant on développe en fait en ce moment une machine qui sera amené à remplacer la Famicom. Ce qui était absolument faux, puisqu'à cette époque, la Famicom cartonnait, évidemment, et ils n'en avaient pas forcément besoin. Mais c'était uniquement en fait, pour amoindrir les effets de sortie de la PC.
Une sorte de discours d'intention qu'on a connu quelques dizaines d'années plus tard. Avec,
un contre-effet d'annonce.
Voilà, avec un Sony qui annonce les Motion Engine un peu pour faire de l'ombre un peu à la Dreamcast émergente à cette époque.
Ouais, je pense que c'est plutôt c'est dans ce genre-là. Ouais.
D'accord. Donc en fait, c'était pour préparer un petit peu le terrain. Forcément, ils y réfléchissaient, mais ils n'étaient peut-être pas aussi prêts qu'ils voulaient le faire croire.
Bah, apparemment, ils allaient plutôt même à reculons. Ils pensaient au départ que la NES était bien installée. Ils ne s'étaient pas particulièrement pressés de renouveler...
Ah bah oui, surtout qu'en 87, ils avaient d'autres projets. Je veux dire, ils préparaient un modem en fait, pour la Famicom. Ils avaient déjà le disque système qui avait un certain succès populaire. Mmh. Enfin, ils avaient vraiment d'autres chats à fouetter que de sortir une 16-bit. Je veux dire, c'était une console qui cartonnait. Ils n'avaient pas de raison d'en sortir une tout de suite. Donc, ils ont commencé à faire des effets d'annonce, oui, pour amoindrir en fait, les répercussions sur les ventes de la concurrence. Mais ce n'était pas prévu du tout. La preuve, elle est sortie en 90. Donc, il a fallu attendre quand même un paquet d'années avant.
D'accord. Et bien justement, tu le disais, sortie en 90, elle est sortie précisément le mercredi 21 novembre 1990 au Japon. On fait juste un petit point pour ceux qui n'auraient peut-être pas toute notion de tous les noms qu'il y a dans tous les pays. La Famicom, c'est la NES au Japon. La NES que nous on connaît. Donc au Japon, la Super Nintendo s'appelle la Super Famicom, alors que en Europe, c'est la Super Nintendo, et aux États-Unis, c'est la Super NES. Donc quand même, c'est trois noms pour la même console. Mais attention, il y a aussi plusieurs versions de la même console, oui. Puisque aux États-Unis, la Super Nintendo sort donc le 13 août 91, donc quand même plus de 6 mois après, et elle n'a pas du tout la même tête. C'est une console beaucoup plus carrée.
Elle était carrée. Entièrement refaite, et même les cartouches du coup étaient pas les mêmes non plus, elles étaient carrées aussi parce que donc ça fonctionnait avec des cartouches et la coque en fait des cartouches tu pouvais pas rentrer une cartouche américaine qui était carrée dans une console française, donc on reviendra sûrement sur les problématiques de lock d'une région à l'autre,
voilà, le fameux AD20.
C'était juste une des méthodes choisies par Nintendo pour éviter qu'on utilise n'importe des cartouches d'import. Et elle était, les deux boutons, donc Power et Reset, étaient bleus sur le dessus de la console.
Une espèce de bleu violacé, ouais.
Ouais,
ouais.
Nous, on avait en Europe, on avait une version très similaire à celle de la japonaise.
C'était
la même.
En forme, ouais, mais les couleurs n'étaient pas tout à fait les mêmes, notamment sur les boutons des manettes. Si je dis pas d'idiotie, nous, on avait des boutons il y avait une couleur par bouton. Non, la version japonaise aussi.
C'est
avait
strictement
une
pareil.
Ouais, aux États-Unis, où les boutons étaient bleus.
C'est ça.
Voilà. Ils étaient tous bleus.
Mais nous, on avait la même que la japonaise.
Il n'y a que le nom qui différait. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'au Japon, ce fameux mercredi 21 novembre 90, c'est juste la folie. Hein. Dès le premier jour, c'est 300 000 machines qui ont été écoulées.
Dès les premières heures.
Ah ouais, premier jour, direct, bim, c'est le carton. Au point que d'ailleurs, le gouvernement japonais avait carrément demandé, suite à ce phénomène, qu'à l'avenir, les ventes de consoles sur les lancements soient décalées en fin de semaine. Je crois que tu veux rajouter quelque chose, Florent.
Oui, en fait, ça s'est répété en fait, pour la Super Famicom, exactement, mais c'était déjà le cas en fait pour les gros jeux hein, comme Dragon Quest 3 qui avait provoqué une folie, mais il y a eu 300 000 ventes effectivement les premières heures pour une demande en fait de 1 500 000 consoles.
C'est énorme.
Ouais, c'est énorme en fait. Et c'est vrai que dans nos recherches, on a retrouvé nous différentes coupures de journaux de cette époque et qui donnaient en fait la part belle aux témoignages des magasins de cette époque. Et il y a eu un vendeur en fait d'une boutique qui a expliqué: nous, on a reçu plus de 1500 réservations pour la console, alors qu'on en a à peine 100 consoles à distribuer. Et donc, sur les 1 500 000 consoles, il n'y en a que 300 000 de disponibles. Deux semaines plus tard, 300 000 autres. En fait, il a fallu attendre un paquet de temps. Mmh. Et même, il y avait tellement de demandes que certaines petites boutiques n'ont pas voulu ouvrir parce qu'ils n'avaient que 4 ou 5 consoles.
Ils avaient peur des
émeutes. Ouais, et donc, ils ont été obligés de fermer boutique et de laisser en fait, des grosses enseignes vendre leur stock. Et puis, plus discrètement, les petites boutiques ouvraient derrière pour éviter les émeutes.
C'est assez intéressant hein, de se resituer à... C'était il y a maintenant quasiment deux décennies, hein, près de 20 ans. Les producteurs, Nintendo, là, n'arrivaient pas finalement à fabriquer suffisamment de machines. Ça se produit encore aujourd'hui, mais dans des proportions encore plus grandes. Mais le marché était aussi plus petit à l'époque. Et ça ne s'arrête pas là, hein, ça ne s'arrête pas à des phénomènes de ruée. Raon, je crois qu'on a carrément des anecdotes.
Il semblerait qu'effectivement, Nintendo était obligé de livrer les machines la nuit. Parce que le succès du produit faisait qu'il était il est tombé en ligne de mire de la pègre,
en fait,
qui voulait récupérer les stocks et les revendre sur le marché noir, quoi. Donc ils ont dû certainement réorganiser leur façon de distribuer les boutiques et les livrer de manière plus discrète ou plus aléatoire pour éviter ce genre de choses, quoi. Pour éviter de se faire braquer, quoi, quand même.
Clairement. Pour prendre aussi un petit peu conscience de la différence d'époque, hein, il y a 20 ans, la Super Nintendo, aujourd'hui, quand une console sort, on est outré s'il n'y a pas au minimum 10 jeux de près par différents éditeurs tiers. Il faut que ce soit panaché, il faut qu'on ait un peu d'action, un peu d'aventure, un peu de sport, des titres forts. Bah, la Super Nintendo, hein, elle est sortie au Japon avec uniquement 2 titres et qu'uniquement du Nintendo. Alors après, quel titre ? On en reparlera tout à l'heure. Super Mario World et F-Zero. Ça dirait que les choses étaient claires, Florent.
Ouais, et il y en a que 2 en fait qui sont sortis au moment du launch, mais il faut savoir aussi que Zelda 3 était prévu à l'origine, puisque c'est même d'ailleurs un des premiers jeux qui a été présenté au moment de la présentation de la console. Elle n'était pas officielle parce qu'en plus elle était assez spéciale, il y avait des différences par rapport à la version commercialisée, mais Zelda 3 devait sortir au moment de la sortie. Ouais.
Ça ne s'est malheureusement pas produit. En Europe, on a eu un petit peu plus de jeux, hein, je crois, Julo.
Oh, oui, on en a eu plus, mais juste pour nuancer ce que tu disais au Japon, quand même, la semaine suivante, il y avait ActRaiser, il y avait Final Fight, machin, etc. Donc,
des gros titres.
C'est vrai que le jour de la sortie, il n'y avait que 2 jeux, mais il y en a eu quand même quelques autres et des perles encore dans les semaines qui ont suivi. Quoi.
Et puis alors, pour conclure ce chapitre sur à l'époque, c'était comment ? La Super Nintendo au Japon, elle était quand même vendue l'équivalent de 210 de nos euros actuels, ce qui fait une console moins chère que la Wii et moins chère que beaucoup de consoles, surtout au lancement, Florent.
Oui. Mais là, ça, je vais aller à contrario en fait, de ce que tu dis, parce qu'à l'époque, et surtout au Japon, c'est considéré comme ultra cher. Mmh. Parce qu'il faut savoir qu'elle était vendue à 25 000 yens, donc c'est effectivement 210 euros, c'est moins cher qu'une console à l'heure actuelle. Mais les Japonais étaient habitués, eux, à des consoles beaucoup moins chères. C'est-à-dire que la Famicom, elle était à 15 000 yens, la Game Boy, elle était sortie à moins de 10 000 yens. Et pour les Japonais de l'époque, la Famicom, quand elle a débarqué, c'était bing, pratiquement 2 fois le prix de la Famicom. Ouais. Et en plus, sans câble, sans jeu, sans transfo.
Ah oui,
ça, voilà, il y avait qu'une manette et que la console.
Attends, parce que tu pouvais réutiliser
sans câble.
Ouais.
Sans câble, parce que tous les gosses avaient la Famicom et les câbles étaient réutilisables.
C'est hallucinant cette histoire. C'est-à-dire qu'il fallait, pour les personnes, on va dire, les nouveaux acquéreurs d'une console, c'est ma première console. Tu es obligé d'acheter en plus des câbles.
Exactement. Donc 25 000 yens nus,
ah oui,
et il faut racheter les câbles derrière et un jeu. Donc en gros, on s'en tirait pour plus de 30 000 yens, ce qui était beaucoup plus que le pouvoir d'achat pour un enfant. Mais ça n'a pas empêché de cartonner.
Ouais, moi, je me rappelle, elle est donc sortie le 11 avril 92 en Europe, donc en France. Elle coûtait à l'époque 1290 francs, que j'avais sorti de ma petite tirelire personnelle. Et elle était vendue.
Elle était vendue. C'est bourgeois.
Mais oui. Elle était vendue chez nous avec un jeu, Super Mario World. Et 2 manettes, si je ne dis pas de bêtises.
Avec des câbles plus longs, des manettes.
J'ai comme une petite point d'interrogation.
J'ai toujours
une
jape.
Je crois que c'était 2 manettes. Hein. Caf.
Super, moi je l'ai acheté après avec le coffret Street Fighter. Ouais. Et là, il y avait 2 manettes, parce que s'il n'y avait pas eu 2 manettes.
Excusez-moi, mais la japonaise était vendue avec 2 manettes aussi. Hein.
Bon, c'est un faux débat, parce qu'étant donné que je ne suis pas sûr, là, j'ai un doute là, sur les histoires de 2 manettes en Europe. Mais néanmoins, j'aimerais qu'on parle de quelque chose sur lequel on va tous être d'accord et qui va faire ressurgir comme une sorte de raz-de-marée de souvenirs incroyables pour certains. Rappelez-vous d'une certaine cassette vidéo où on tapait un numéro de téléphone, ça faisait « Allô, c'est Nintendo,
oh là là.
Comment ça va ? La Super Nintendo ? Regarde, c'est 158 000 bits, etc. » Est-ce que vous vous rappelez de cette cassette vidéo vendue dans la plupart des magazines de jeux vidéo spécialisés à l'époque ?
Moi, je m'en souviens très bien, j'ai dû la regarder mais des millions
de fois.
Surtout le passage où on montre Contra 3 avec l'avion qui arrive en zoom, là, c'était absolument fabuleux pour l'époque. Et je la connaissais, mais par cœur.
Mais par cœur. D'ailleurs, on va vous la poster hein, sur Gameblog. Vous allez voir dans les blogs, on va vous la mettre. Hein, si on ne l'a pas déjà fait, mais je ne crois pas. Et c'est un tort. Donc, on va réparer cet oubli avec genre, écoutez, oui, c'est du vrai tennis. Poc, poc, avec des sons tout pourris. On était là, c'est extraordinaire. C'est de la numérisation de son. C'est fantastique. Enfin bon, comme quoi, si on la regarde aujourd'hui, on est mort de rire. Genre, qu'est-ce que c'est ? C'est du scrolling. C'est quoi ? C'est des trucs super, c'était incroyable. La Super Nintendo quand même qui arrivait directement aussi avec beaucoup de jeux. On va revenir tout à l'heure en milieu de podcast sur ces grandes séries hein, qui ont fait l'histoire de la Super Nintendo, de Mario Kart à Star Fox en passant F-Zero, Super Mario World, les Pilot Wings, Secret of Mana, Soul Blazer, il y en a tellement, des Street Fighter aussi.
Il y avait quand même un truc dans le tas en dehors des blip-blip et tout ça, c'était quand même le fameux mode 7 sur lequel on va revenir et qui permettait des choses qu'aucune autre machine pouvait faire à l'époque, quoi.
Exactement. Resituons juste rapidement, avant de pénétrer justement au cœur de ces petites anecdotes, la lutte entre la Mega Drive et la Super Nintendo, qui a tenu en haleine principalement, j'ai envie de dire, les Occidentaux, en fait, hein, où ça a vraiment été la guerre aux États-Unis et en Europe, où Sega voulait jouer la carte un peu plus mature, Sega c'est plus fort que toi, etc. C'est cette grande époque. Finalement, la Mega Drive avait pris de l'avance, hein, puisqu'elle était sortie quand même quelques années avant, quasiment 2 ans avant. Mais en fait, il faut attendre avril 92, Julot, pour voir une répartition à 50-50 un petit peu des deux consoles.
Ouais, exactement. En fait, comme disait Florent, au Japon, la Mega Drive, elle n'a jamais vraiment marché. Aux États-Unis, ils avaient une stratégie de communication qui était super bien calibrée. Ils ont eu un succès énorme, effectivement, sur le côté maturité.
Elle s'appelait d'ailleurs pas la Mega Drive aux États-Unis, Genesis. Voilà.
Et donc effectivement ils avaient une avance et c'est en 1992 que la Mega Drive et la Super Famicom étaient au coude à coude sur un plan mondial, quoi. Et puis voilà.
C'est là où je reprends la main. Sauf si Florent veut ajouter quelque chose.
Non mais justement je voulais par rapport à ce que disait Julot, le marketing de Sega of America était fabuleux parce que on avait le droit
même
à
en
cette
Europe
époque.
Ils étaient
mais aux États-Unis c'était 10 fois plus agressif dans le sens où on avait le droit aux publicités comparatives. Et c'est vrai qu'ils s'envoyaient des boulets de 2 tonnes dans la face. Et il y avait même un slogan qui était assez génial à l'époque. C'était pour contrer Nintendo, c'était Genesis does what Nintendo don't. Et c'était assez drôle en fait.
La Mega Drive fait ce que Nintendo ne fait pas, quoi.
Exactement. Donc ils montraient Sonic qui allait super vite par rapport à un Mario qui était tout rondouillard, qui allait pas très vite. Ouais. Ils montraient du Super Monaco GP par rapport à un Super Mario Kart qui se traînait aussi. Enfin voilà, c'était un peu ça quoi qu'ils voulaient. Le slogan était assez bien trouvé, quoi.
Mais rappelez-vous quand même à cette époque, c'était surréaliste. On avait quand même des punks dans les pubs Sega.
Ah, c'est ça. Il y avait le punk.
Il y avait Michael Jackson aussi avec son jeu Moonwalker. Voilà. Enfin,
qui était mortel.
Qu'il mettait le paquet à fond, quoi.
Ouais, sur l'image mature, ouais, un petit peu, presque un petit peu en fait ce qu'a fait Sony par la suite.
Mais mature un peu trop, entre guillemets, enfin mature bad boy un peu.
Ouais, il y avait ça, bah, y a le fameux slogan Sega c'est plus fort que toi, ouais, avec le punk dont tu parlais là, qui était de sa
mais
en cuir un peu à la Mad Max.
What, je crois.
C'était plus fort que what. Effectivement, déjà à l'époque, c'était un petit peu nouveau pour une console de jeux vidéo, quoi.
Clairement, Julot.
Mais d'ailleurs, il y avait un truc aussi, c'est que Nintendo était vachement. Enfin, ils le sont toujours, mais regardant sur ce qui sort sur leur console, etc.
Ah, voilà, c'est là où je voulais.
C'est là que tu voulais m'emmener, en
voilà,
fait.
Voilà, exactement. Par la main.
Merci. j'adore quand tu me tiens la main.
Entre Julien. Entre Julien, on se comprend.
Oui, on se rappelle notamment de la sortie de Mortal Kombat.
Voilà.
Voilà, qui était hyper sanglant comme en arcade sur Mega Drive et qui sur Super Nintendo était complètement amputé de tout son sang,
expurgé de toute violence.
Voilà.
Et c'est justement effectivement là où je voulais en venir, Julot, c'est que ce duel entre la Mega Drive et la Super Nintendo, ça a apporté beaucoup de nouveautés et des grandes premières dans l'histoire du jeu vidéo sur la manière de concevoir un petit peu ce média au niveau marketing, puisque à l'époque de la NES, Nintendo avec son fameux Seal of Quality, etc., demandait plusieurs choses aux éditeurs tiers qui voulaient faire des jeux pour la NES. Ils commençaient déjà par leur demander une exclusivité de 2 ans de leur jeu. C'est-à-dire que bah, si tu sors le jeu sur NES, t'as pas le droit de le sortir ailleurs avant au moins 2 ans. Bon, bah super. C'est quelque chose qui a disparu avec la Super Nintendo puisqu'ils étaient en mode de compétition. Ouais. C'est pareil aussi, il y a eu cette... justement, avec Acclaim qui a sorti ces jeux très violents, il y a eu le gouvernement américain qui a commencé à se pencher un peu sur le côté mature, sur le sang.
C'est là qu'il y a eu les classifications.
Exactement.
Et grâce aux classifications, Nintendo a fini par mettre du sang dans les jeux. L'emblème, encore une fois, c'est Mortal Kombat, le deuxième épisode.
Voilà. Ouais. Et qui, du coup, c'est le premier, c'est beaucoup mieux vendu sur Mega Drive que sur Super Nintendo. Il y a eu cette fameuse loi donc américaine pour mettre effectivement des mentions d'âge, on va dire ce qui est devenu chez nous plus tard la norme PEGI. Et c'est suite à ça que Nintendo a fait, puisqu'un organisme s'occupe de mettre des âges, nous on va plus s'en occuper, donc faites ce que vous voulez. Et c'est à partir de là qu'il a commencé à avoir le loup dans la bergerie du côté de Nintendo.
Il y avait aussi un autre truc, c'est que Nintendo, il voulait absolument gérer la fabrication des cartouches, etc. Et il touchait des royalties en fait sur chaque jeu qui sortait sur Super Nintendo. Or, Sega ne faisait pas du tout ça. Et vis-à-vis des... Alors, je ne sais pas s'ils l'ont changé, ça, sur la Super Nintendo. Florent, peut-être que tu sais.
Non, enfin,
ça a toujours été le cas, même sur Nintendo 64, ils ont continué,
bien sûr. Ils ont été très connus pour ça pendant longtemps.
Ils ont continué jusqu'à, effectivement.
Mais ça leur a fait un peu de mal au niveau des infidélités des éditeurs qui étaient vraiment avec eux, quoi. Parce que, enfin, faut rappeler que la Super Nintendo, enfin, la Super Famicom, quand elle est sortie, ils avaient juste tout le monde, quoi. Ils avaient Capcom, Enix, Square.
Konami, Square.
Ils avaient tout le monde avec eux, et, enfin, en tant que partenaire privilégié, quoi. Et c'est comme ça un peu que, d'ailleurs, enfin, c'est ça qui a fait très mal à Sega dès le départ, quoi.
Justement, maintenant qu'on a commencé à entrevoir un petit peu ce qu'allait être le grand succès de la Super Nintendo, avant de parler des grands jeux qui ont fait l'histoire de la Super Nintendo, j'aimerais avec Caf qu'on revienne un petit peu sur aussi sur la technique. Qu'est-ce qu'elle a dans les tripes, cette console? Et qu'est-ce qui, finalement, ça lui a aussi permis plus tard d'avoir des titres surprenants, impressionnants, et qui a contribué aussi à son succès?
Ah, tu as du mal. Tu patines.
Il fait froid.
Tu m'étonnes. Non, techniquement, elle était pas vraiment en avance. Elle avait des petits trucs en plus. Elle avait surtout une puce sonore qui était bien plus développée que celle de la Mega Drive, qui nous venait d'une petite boîte. Je fais un peu d'électronique. Ouais. Qui s'appelle Sony.
Ouais, ouais. D'ailleurs, cette puce, elle aura une incidence. On en parlera tout à l'heure. Hein. Il s'agit de la Sony SPC-700.
Elle a une histoire extraordinaire.
Elle a été créée pas par n'importe qui, d'ailleurs, Caf.
Non, elle a été faite par un petit mec qui s'appelle Ken Kutaragi.
Ken Kutaragi, effectivement.
Qui a fait la PlayStation 1 après, comme voilà. Ça, hobby. Et il faut savoir que cette puce était vraiment puissante. Enfin, elle était tellement puissante qu'elle a aidé, en fait, dans de nombreux jeux à afficher plein de sprites. Les premiers shoot'em up, en fait, où il y avait plein de trucs à l'écran, ils se sont aperçus que la console elle-même, elle était finalement pas si puissante que ça.
Ils utilisaient la puce sonore.
Ouais, pour faire les collisions, les détections de collisions, des petits sprites, etc.
Bah, rappelle-toi, même à l'époque de la Super Famicom, quand on voyait les shoots de la PC Engine, on était juste dégoûté, quoi. Parce que sur PC Engine, ça boostait grave au niveau des shoots, et sur, sur fait, Super NES, ça ralentissait.
Elle avait des limitations techniques, en fait, et du coup, il a fallu gérer, quoi.
Florent.
On va pas détourner le propos, mais là, en parlant de shoot, c'était un des gros problèmes de la Super Famicom au début, c'est que R-Type 3 ou même Gradius, mais c'était une calamité, ça ralentissait tout le temps.
Mais Mega Drive, d'ailleurs, mettait la barre très haut avec les Thunder Force de ouf, etc.
Thunder Force,
qui était extraordinaire, quoi.
Rant. Ouais, mais là, eux, ils avaient un problème de clignotement, c'était différent.
Oui, c'est ça.
Au lieu de ralentir, t'avais des sprites qui disparaissaient toutes les 2 frames ou toutes les 3 frames.
Ouais, bref, quand tu voulais jouer au shoot, il fallait avoir une PC Engine en plus.
Voilà, exactement. Le problème était réglé. Mais donc, techniquement, elle avait ce genre de limite. Elle avait par contre une palette de couleurs qui était un peu plus développée que sur Mega Drive, et surtout elle avait donc le fameux mode 7 qui était une super arnaque graphique, en fait, quand on réfléchit.
Mais alors, pour l'époque, on en prenait plein les mirettes.
Techniquement, c'est une arnaque, mais c'est juste un coup de génie, quoi.
Bien sûr, c'est un plan qui bouge de manière horizontale, en fait, mais en perspective.
Et un peu zoomé.
La démonstration, c'était F-Zero. L'idée de génie, c'est de sortir F-Zero avec la sortie de la console, qui était le premier jeu à utiliser ça. Donc, d'entrée de jeu, on a vu ce que ça pouvait être, ce que ça pouvait donner. Et puis surtout, personne ne le faisait. Donc, du coup, c'était genre, c'est de la 3D.
C'était hyper impressionnant.
Oui, parce que F-Zero, en plus, ça traçait, vraiment.
Ça allait super vite, mais c'était génial pour faire une impression de vitesse, etc. Mais c'était pas du tout de la 3D, c'est des sprites, en fait, qui glissaient sur une surface, quoi.
Mais en fait, c'est un scrolling, en fait, vertical qu'on a incliné,
exactement,
en fait, plus loin, et on le fait défiler.
Voilà.
Ça donne une impression de 3D, parce que c'est géré comme ça.
Ça te fait le générique Star Wars, en fait, quelque part, quoi.
Exactement.
C'est ça.
Rahan.
Mais elle faisait pas que cet effet-là d'un peu de profondeur. Il y avait aussi tout ce qui était rotation, qui a été utilisé notamment dans Castlevania pour faire des niveaux qui tournaient sur eux-mêmes, enfin,
mais
des trucs qu'on n'avait jamais vu.
Après, c'est des variations sur une technologie qui reste une arnaque technologique, une illusion d'optique.
Non, mais justement, j'aimerais juste préciser pour tous ceux qui...
Et c'est ça qui est génial.
Parce qu'on a l'habitude dans le jeu vidéo, enfin dans l'informatique en général, de donner des noms à des technologies, donc le mode 7, le machin. Mais en fait, le mode 7, c'est tout simplement le 7e mode qui était implémenté pour aider les développeurs dans la Super Nintendo, en fait, une sorte d'outil de développement. Et donc, il y en avait 7 modes qui commençaient du mode 0 au mode 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et donc, chacun, c'était un mode différent. La rotation, le zoom des scrolling, les machins.
Mais c'est plus, en fait, dans toutes les bécanes à l'époque, c'est pas comme maintenant où tu programmes le truc que tu veux, voilà, t'as ton établi, tes outils et tu te démerdes. C'est qu'en fait, c'était implémenté dans les consoles.
C'est ça,
donc, en fait, chaque ordinateur avait sa puce, ça va faire 5 trucs, et pas 6.
Non, monsieur, la Super Nintendo, ça va en faire 7.
Et ben voilà. Et donc, en fait, t'allais taper dans ce truc là, quoi.
Non,
donc,
7.
C'est si il commence à
8,
zéro, ça
oui,
fait
tout
8.
À fait. Il y avait 8 modes, oui. Depuis le début, je vous dis qu'il y avait un piège, et ben vous êtes tous tombés dedans, vous êtes vraiment trop mauvais.
Sauf que les auditeurs ont rien compris, mais en fait, voilà, ça commençait à zéro, donc voilà, il y avait 8 modes
la Super Nintendo.
Et effectivement, c'était des trucs qu'on avait aussi sur les autres consoles. Donc après, ça a été marketé comme ça, mais je suis sûr que les noms des scrolling sur Amiga devaient avoir des trucs aussi hyper établis comme ça. Et, bon, bah, eux, leur mode 7 a été hyper connu parce que F-Zero, parce que Mario Kart, et que c'est des titres qui ont juste marqué toute l'histoire du jeu vidéo. Quoi.
Donc effectivement, comme tu le disais, elle était un petit peu plus puissante par rapport à la Mega Drive au niveau, par exemple, de l'affichage du nombre de couleurs, etc. Donc elle pouvait en afficher jusqu'à 4096 à l'écran, parmi une palette incroyable de 32 768 couleurs. Ça nous fait vraiment une belle jambe. Elle pouvait afficher, et ça c'est pas mal quand même, jusqu'à 128 sprites.
Oui. Ouais, mais alors
32 problème... par ligne de balayage maximum. De taille de 8 par 8 ou de 128 par 128 pixels.
Le professeur Julien a toujours
exactement.
Dire.
Putain, t'aurais dû faire ça toute ta vie.
Mais je peux le faire. Avec la Brita, l'eau est filtrée de manière parfaite.
Mais s'ils avaient su, ils auraient demandé à quelqu'un d'autre pour faire la cassette vidéo de tout à l'heure. C'est à toi qu'ils l'auraient demandé, je pense.
T'inquiète, t'inquiète.
Sauf qu'à l'époque, ça aurait fait « Oui, alors bonjour
!» avec sa tête d'Harry Potter.
Je m'appelle Julia et j'aime beaucoup les jeux vidéo.
Mais si vous saviez comme je l'ai usé cette cassette.
Mais on se doute, mec, on se doute.
Dès que je rentrais de l'école, parce qu'à l'époque c'était l'école, je pense que ça devait même être, même pas le collège, mais le primaire.
Tu m'étonnes.
À 92, ouais, peut-être pas, j'ai un doute. Et ben je la regardais, je la re-regardais, je la connaissais par cœur, effectivement. Angel, je crois que tu voulais dire quelque chose. Mais c'est pas sûr, en fait. Non. C'était
absolument
qu'une impression.
Pas, non.
Non, mais il était subjugué par tes histoires de pixels, là, celle-là.
Non, j'étais en train de t'imaginer en culotte courte.
C'est ça.
Et j'avais un début d'érection.
En fait, j'avais pas de culotte courte, mais j'avais des petits pantalons en velours. Très sympa.
Bon, allez, enchaîne.
Comme je jouais au foot, parfois je rappais. Et le velours râpé, bah, c'est pas très beau. Alors, bon.
Tu viens de tuer l'ambiance de ce podcast.
Allez, puisqu'on parlait de technique, on va se ressaisir. On va continuer avant de parler des jeux. Hein. On va finir un peu avec la technique. En 93, il y a une vraie technologie complètement nouvelle qui arrive. Et c'est la toute première fois sur console que ça se produit. C'est intégrer à l'intérieur des cartouches une nouvelle technologie, ça s'appelle le Super FX. Ça a été développé en fait par Argonaut Games et c'est en fait le début de quelque chose d'un petit peu nouveau, c'est-à-dire l'apparition
la
3D,
la
voilà,
3D
avec Star Fox.
Oui, parce que le mode 7 c'était bien joli, mais la puce elle pouvait pas vraiment le faire, donc il a bien fallu faire de la. Quand la 3D a commencé à se démocratiser sur des machines autres. Et surtout le PC et les ordinateurs ludiques comme l'Amiga, l'Atari ST, sur console, on était un peu à la ramasse. Et du coup, on a eu plein de périphériques un peu bâtards. On pourrait reparler durant 30... C'était le 32X, c'est
X,
ça
ouais.
Voilà.
Ouais.
Donc Nintendo a eu une idée vachement plus élégante, on va dire. C'était de mettre sa puce 3D dans la cartouche. Et dans la cartouche, du coup, les gens n'ont pas besoin d'acheter un accessoire, ça marche tout de suite. Et là, on a eu le Star Fox, qui était quand même une bonne claque pour l'époque.
Ah, franchement, ouais. Alors,
devait pas, ça devait pas être. Enfin, au départ, c'était un truc de test, ils ont fini par en faire un vrai jeu après, mais
le Star Fox
ouais, Star Fox au départ c'était pas garanti que ça soit le jeu qu'ils allaient sortir avec le Super FX quoi.
Alors juste histoire de vous la raconter dans tous vos dîners urbains, sachez, parce que je sais qu'a priori vous en parlez à peu près tous les deux jours de la Super FX, sachez que vous pouvez aussi l'appeler le GSU1, qui est donc le Graphical Synthesizer Unit.
Il s'est raconté déjà à l'époque hein.
Et en fait qui est en fait donc un coprocesseur graphique et qui était quand même cadencé à un truc de malade mental de 10,5 MHz.
Ah bah attends, c'est énorme, attends.
Voilà, ce qui permettait d'afficher effectivement une centaine de polygones
pas
mappés.
Et tu sais quoi ? Et à l'époque, ils se la racontaient parce que l'Amiga et tout ça, c'était 7 MHz.
Ils pouvaient se la raconter, surtout que derrière, quelques mois après, ils ont sorti le Super FX 2 qui a fait tourner des jeux. Parce que oui, en gros, pour vous la résumer, un Super FX, il n'y a pas eu beaucoup de jeux. Il y a eu Star Fox, Dirt Racer, voilà. Dirt Trace FX, Stunts Race FX et Vortex. Point.
Voilà.
Et donc, le Super FX 2
a
permis.
Fox, en fait, quoi.
Oui, c'est un peu l'idée.
C'est ça.
A permis d'avoir quand même Doom, qui était une adaptation plutôt décente pour la Super Nintendo, mais surtout Super Mario World 2, alias
Yoshi Island.
Merci Florent, Yoshi Island, vraiment qu'il y en a un qui suit, parce que oui, ça permettait de faire de la 3D, enfin un peu limitée, mais de la petite 3D, mais aussi de la 2D, un peu boostée. Il y a eu Star Fox 2, qui aurait dû sortir, il était quasiment fini, il a été annulé. Il y avait aussi FX Fighter, pareil, quasiment fini, mais annulé, qui était une sorte de Virtua Fighter. Et il y a eu surtout Super Mario FX,
c'est
qui
ça,
était le prédécesseur de Super Mario 64, et qui a lui aussi été avancé, mais annulé. Voilà.
Et bien,
en gros, il n'y a quand même pas eu tant de jeux que ça, hein, utilisant cette technologie du futur intersidéral.
Pas forcément pour rien, ça leur a servi plus tard. Mais...
C'est vrai.
C'est un peu l'idée. Mais on continue dans les technologies incroyables de la Super Nintendo, parce que c'est vraiment une machine...
Sans aller jusqu'à là, elle a quand même inventé les boutons de la tranche, quoi. Les boutons de tranche sur les manettes.
Oui, mais alors ça, on va en parler après, justement.
D'accord. Pour l'instant,
on fait de la technique pure. Après, c'est l'interface homme-machine, monsieur.
Tu n'es pas content, là. Tu viens de péter sa transition. Hein.
Exactement. Parlons de la technique pure, parce que la technique pure a permis, par exemple, en novembre 1994, avec une association avec Silicon Graphics, de faire un jeu édité par Rare, qui s'appelle Donkey Kong Country. Et qui est le premier jeu qui a apporté des graphismes qui étaient vraiment en avance à l'époque sur ce que faisait la concurrence.
Ouais, mais c'était des sprites.
C'était des sprites, certes, mmh. mais ils avaient, toutes les textures des sprites, par exemple, avaient été faites sur Silicon Graphics en 3D, ouais. réintégrées derrière.
Il y a eu un super plan marketing autour du jeu, et le résultat a été très sympa. Mais c'était de l'énorme branlette, c'était juste des sprites qui étaient pré-rendus et qui étaient jolis, quoi.
Tout à fait. Mais au niveau sonore et au niveau visuel, c'était quand même plutôt la claque. Et effectivement, c'était très marketé, mais ça a bien marché, puisque bien c'est sûr. Quand même tout simplement... à l'époque, hein, le record de vente absolu en un plus court laps de temps. Ça veut dire qu'en 45 jours, les 45 premiers jours du lancement de Donkey Kong Country, il s'en est quand même vendu 6,1 millions d'exemplaires. Pour vous donner un ordre d'idée,
c'est honnête.
Un Gears of War 2, c'est 3 millions, hein, pas plus. C'est-à-dire que c'est deux fois plus. Ça calme.
Surtout avec les prix d'époque.
Ah, mais Angel. C'est deux fois plus de consoles sur le marché aussi.
À l'époque, un petit peu plus. Mais pas tant, il n'y avait pas deux fois plus de machines, hein, parce que la Xbox 360 aujourd'hui est quasiment à 30 millions, et la Super NES a fini sa vie à 49 millions d'exemplaires. Donc, mais ça reste un très beau succès en tout cas. Je regarde si techniquement on a fait à peu près le tour. Je crois que c'est à peu près bon. Hein. Ouais, il y aura des anecdotes, genre la PlayStation, mais on en parlera en fin de podcast. On parlera aussi du Super Scope et ses 9 jeux, bien évidemment. Vous savez, ce bazooka incroyable qui n'a jamais marché. Pourquoi ? On vous le dira tout à l'heure. Mais justement, Raon, là, je te redonne la parole concernant la manette qui, elle aussi, effectivement, a marqué les esprits.
Oui, j'ai un petit peu tout dit en même temps. Mais il y avait donc 4 boutons de façade, pour ceux qui ne s'en souviennent pas. C'était donc déjà 2 fois plus que celui de la NES, plus 2 boutons de tranche. Et c'est la première fois qu'il y avait des boutons de tranche comme ça sur une console d'envergure comme la Super Nintendo.
D'ailleurs, les boutons de façade, c'était donc A, B, les boutons de la Famicom et X, Y. J'ai jamais compris pourquoi ils n'avaient pas fait...
C'est bizarre.
Fini par Z, quoi. Enfin,
Mais oui, c'est ça, ouais. Bah, le Z est apparu sur la Nintendo 64 plus tard, parce que le petit trigger en dessous là.
En fait, ils avaient tout prévu depuis le début.
Mais bien sûr, c'est comme dans Lost, mec. Il y a pas de ils ont déjà écrit la fin.
C'est son chaîne-moi, lui, il va le placer tout le temps maintenant.
Oui, oui.
4, mais 8, les boutons 15, de, 16, le bouton 23, de 3, 42. En fait, il est assez commun de dire que les manettes de Nintendo, elles sont faites en fonction des jeux qui sont en train de développer. Et les boutons de la tranche de la Super Nintendo aussi ont été faits en fait pour F-Zero. Parce qu'il voulait justement pouvoir contrôler le petit vaisseau, les faire déplacer plus rapidement. Voilà.
Et puis ça les a bien aidés, parce que sur un titre comme Street Fighter, hein, par exemple, là, de son côté, Sega avec la Mega Drive a dû lancer des nouvelles manettes avec plus de boutons.
La version arcade, c'était déjà 6 boutons, et c'était la seule manette à l'époque qui avait 6 boutons accessibles, même si c'était quand même déjà pas très pratique.
Tout à fait. Alors pour clôturer un petit peu, on va dire, l'historique, avant de parler vraiment des anecdotes pures et dures. Aux États-Unis, la production de la Super Nintendo s'arrête en 99, après quand même donc quasiment une décennie de bons et loyaux services. Alors qu'au Japon, la production, elle, s'est arrêtée, c'est assez hallucinant, vous allez voir, en septembre 2003. C'est très très récent. C'est à ce moment-là qu'en fait ils ont annoncé que aux gens, faudrait mieux pas qu'elle casse si vous l'utilisez encore, parce on a plus les composants pour vous la remplacer. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Et pour la petite anecdote, le dernier jeu sorti sur Super Nintendo, il date quand même du 11 novembre 2000, et il s'agit de Metal Slayer Glory Director's Cut, un jeu qui est resté dans à peu près 3 mémoires, puis il n'est pas sorti du Japon.
C'est parce que c'était pas un jeu Super Scope.
Non, du tout. Hein. C'était un jeu très narratif avec des écrans fixes et puis pas mal de blabla.
Et en plus, il est sorti sur un support qui est le Nintendo Power. Donc, c'était un système de téléchargement, en fait. Enfin, on pourra peut-être en parler tout à l'heure. Donc, c'est même pas, je crois, hein, je crois que c'est même pas sur cartouche, en fait, qu'il est sorti.
Ah, il a essayé de se la jouer fine, ce petit jeu de...
Ouais.
Pas très connu. Voilà où je voulais en venir. Bon, allez, mesdames et messieurs, je pense qu'il est grand temps de s'intéresser aux jeux qui ont fait la légende. Hein. Maintenant, vous l'avez compris, la Super Nintendo, vous êtes renseignés techniquement, son évolution. Sachez donc que c'est la 4e console de salon la plus vendue de tous les temps. La première étant la PlayStation 2 avec 120 millions d'unités. La PlayStation, 102 millions d'unités. La Nintendo, la NES, la toute première NES, avec 62 millions d'unités. Et donc, la Super Nintendo arrive avec 49 millions d'unités vendues. vendues sur toute sa vie dans le monde. Malheureusement, une quatrième place qu'elle risque de perdre dans quelques temps, puisque la Wii la talonne déjà, j'ai envie de dire, avec 46 millions d'unités. Donc la Super Nintendo risque bientôt d'être la cinquième console de salon la plus vendue de tous les temps. Hein. Nous n'en sommes pas encore là.
Avec 4 Nintendo dans l'histoire, en fait.
Ah oui, non, mais Nintendo... PlayStation, c'est pas mal quand même. Hein. Deux consoles, leurs deux premières consoles, les deux premières places, belle réussite. Mmh. Mais justement, ce sera un petit peu le bouquet final de ce podcast tout à l'heure en fin d'émission. On vous parlera de la PlayStation et vous comprendrez pourquoi Nintendo et Sony, et surtout le mot même, le nom même de PlayStation, est très, mais très très lié à la Super Nintendo. Vous comprendrez, pour ceux qui ne le savent pas encore au niveau de cette anecdote, c'est assez improbable, vous allez voir. Parlons des jeux, messieurs. Et il y en a beaucoup, hein. Il y en a vraiment beaucoup. On ne va pas rentrer dans le détail même de ces jeux, mais vous dire à quel point ils ont changé un peu la face du jeu vidéo.
C'est sur cette génération-là que de grosses licences Nintendo aujourd'hui ultra connues sont nées. Mm-hmm.
En fait. Et je crois qu'on va commencer par le plus évident, le premier, hein, celui qui en Europe en tout cas était livré avec la console. Il s'agit de Super Mario World. Qui veut prendre la parole ?
Raon. Là, je suis parti,
tout
mais c'est
pas en même temps.
C'était pas. Alors lui, c'est un jeu extraordinaire évidemment, mais qui fait directement suite en fait aux autres Super Mario, mais en introduisant et en développant un peu l'échelle du jeu en fait, bien au-delà de ce qui avait été fait avant quoi, dans sa structure et tout ça. Si Super Mario Bros 3 avait fait un petit peu ça avec la carte,
on s'en était pris plein la gueule avec Super Mario Bros 3 quand même.
Ouais. Déjà.
Et donc c'est pour ça c'était assez énorme. Hein.
Florent.
Mais personnellement, moi je pense que Super Mario World, techniquement, il y avait 2-3 effets qui étaient sympas dans certains palais, tout ça, mais graphiquement, il n'était pas du tout aux prétentions de la Super Famicom. Et je me souviens même que dans certains magazines en France, je ne sais plus lequel malheureusement,
vois venir.
non, mais à l'époque, en fait, ils avaient fait un test import de la Super Famicom, ils avaient noté les deux premiers jeux. F-Zero avait eu pratiquement les meilleures notes dans tous les magazines, et ils disaient Super Mario World, bon, c'est pas mal, c'est sympa. Ils lui ont mis 80. Oh, un truc comme ça, un 80 sur 100. Et au moment de la sortie de la Super Nintendo, il y avait eu tout le battage médiatique, Mario, enfin tout ce que vous voulez. Et là, comme par hasard, le jeu, il sortait un an et demi plus tard, il avait eu 92 ou un truc comme ça, alors que c'est exactement le même. Il y avait eu, enfin bref.
Très honnêtement, ça reste quand même
un très très bon jeu.
Non, mais même techniquement, moi je me rappelle avec mes yeux d'enfant, par exemple les bumpers qui permettaient de changer tous les petits points d'exclamation de couleur. Il y avait des bumpers rouges, jaunes, bleus.
En fait,
etc.
C'était ludiquement, surtout qu'il avait
des espèces de petits reflets. Oui. L'apparition de Yoshi aussi, quand même, espèce de petite monture. Le moment où on pouvait voler avec cette plume qui a rajouté une petite cape, il y avait, et puis surtout il y avait, ouais, ludiquement Julo a raison, le nombre,
c'est pour ça qu'il est sa force, qu'il est à retenir,
c'est pas
plein d'idées, les niveaux avec les grilles qui se retournaient, où on passait derrière, en fait il y avait un plan comme ça, et il y avait plein de petites idées, parce que ça restait un jeu de plateforme en deux dimensions qui était un genre qui était déjà éculé pour l'époque. Ils avaient quand même réussi avec cet épisode à relancer encore plein de nouvelles idées de gameplay pur, vraiment, et à faire un jeu qui était long, riche, varié.
Et les passages secrets qui étaient un petit peu aussi la marque de fabrique des Mario, hein, depuis le premier. Mais alors là, sur la carte, on pouvait avoir des passages secrets, des raccourcis, on allait dans l'eau, on repartait. C'était extraordinaire, quoi. Moi, je m'en rappelle.
Mais ça reste un Mario entre guillemets. Alors que si personne d'autre a des choses particulières à dire sur ce jeu, c'est quand même vachement important de signaler que c'est à côté que sont nés des licences. Genre, je pense à évidemment F-Zero, qui est pas une licence qui a été très très déclinée, mais Mario Kart.
Quand même.
Mario Kart. Ouais,
c'est venu bien plus tard, Mario Kart. Ouais. Mais F-Zero déjà au lancement, Nintendo. Techniquement, c'était une tuerie quoi. F-Zero et ludiquement, c'était génial aussi quoi. Donc voilà, quoi, on avait tout ce qu'il fallait rien qu'avec ces deux jeux-là au départ. Quoi.
C'était péchu, c'était nerveux, ça allait vite, c'était bien réalisé, il y avait du challenge, c'était classe. Hein.
Les musiques étaient excellentes hein, sur F-Zero. Mais F-Zero, on dit que F-Zero n'a pas été une série très déclinée, mais il y a une raison en fait à ça, c'est que F-Zero, ça a cartonné au Japon, et forcément Nintendo s'est dit on va sortir un F-Zero 2. Bon, F-Zero 2 n'est jamais arrivé. Alors, il y a les puristes.
Sur Super Nintendo.
Voilà, les puristes nous diront, mais si, c'est sorti sur Satellaview, enfin, c'est un truc encore un petit peu différent. Mais il faut savoir qu'en fait, F-Zero 2, c'est Super Mario Kart.
Alors, ça explique-nous, Florent, parce qu'effectivement, c'est une anecdote vraiment méconnue.
Bon, F-Zero a cartonné, ça on l'a dit. Il faisait partie des meilleurs jeux, des jeux les plus vendus de la console. Et ils se sont dit, on va relancer la console, mais pour faire mieux, on va mettre Mario dedans. Bon, alors à partir de là, on se dit, bon, ça y est, bon, ils ont trouvé Mario Kart. Non, il y a quand même des étapes intermédiaires. Le problème, c'est que transposer Super Mario avec F-Zero, c'est pas forcément évident. Un univers assez kawaii et puis un autre univers ultra futuriste, c'était pas c'était pas très facile. Ils se sont dit bon, on va changer les voitures, on va mettre des voitures normales. Ils l'avaient déjà fait sur Famicom. Il y avait un jeu qui s'appelait 3D Hot Rally. C'était sorti sur Disk System. Donc c'était un jeu de Mario. C'était un jeu Mario. Tous les personnages de Mario conduisaient des voitures, mais on les voyait de derrière, ce qui fait qu'on voyait pas les personnages de Mario. On voyait très très mal les personnages. C'était des vraies voitures. Et ils se sont dit, bon, là, on va refaire la même erreur, c'est-à-dire qu'on aura des voitures, mais on ne verra toujours pas les personnages de Mario. Comment est-ce qu'on pourrait faire pour voir les personnages de Mario sur notre F-Zero ? Bah, l'idée qu'ils ont eue, c'était tout simplement de mettre des cartes. Voilà.
Parce qu'il n'y avait pas de cockpit. Qui pas de cockpit
et là, on pouvait voir les personnages de Mario. C'est la seule et unique raison pour laquelle ils n'ont pas pris des Ferrari, des Formule 1 ou des trucs comme ça. C'est que là, on voyait vraiment les personnages, c'était à l'air, quoi.
Et de mettre aussi une sorte de rétroviseur où si on pouvait voir les personnages.
Ouais, entre autres, ouais. Ouais.
Donc, et puis il y avait le fameux mode battle avec les ballons. C'est une version. Je sais pas si vous y avez joué tant que ça, mais c'est une version de Mario Kart qui est restée. À laquelle on a joué pendant vraiment super longtemps.
À cette époque, tout était super quelque chose sur Super Nintendo. C'est vrai. C'était super tennis, super soccer, super Mario World, super
c'est direct ça.
Donc on y jouait super longtemps, forcément.
Voilà.
Non, c'était vraiment effectivement un grand jeu et c'est une anecdote assez intéressante, très très méconnue. Et d'ailleurs, il y en a d'autres. Tout à l'heure, quand on parle de Star Fox, Florent, j'aurais besoin de toi.
Encore une autre licence qui est née sur Super Nintendo, qui a donné plein d'autres jeux après dans cet univers-là, Star Fox.
Tu veux qu'on en parle maintenant ?
Si tu veux.
Et bien alors,
c'est toi le maître de cérémonie.
Et bien parlons-en maintenant, puisqu'on l'a lancé. Justement, Florent, Star Fox, donc la Super FX, donc cette petite puce, on en a parlé, qui permettait d'afficher des polygones. Mais pourquoi un renard, j'ai envie de dire, comme emblème de ce jeu ?
Bon, en fait, cette anecdote, je l'ai apprise il n'y a pas très longtemps. Lors du voyage du Pixel Love l'année dernière, on a eu la chance de dîner avec des gens de Nintendo pendant une soirée, et dont des gens qui avaient travaillé sur Star Fox, donc on leur a posé pas mal de questions, et il y en a une qui était assez intéressante, c'était pourquoi un renard ? Et en fait, il faut savoir qu'à côté du bâtiment Nintendo qu'a développé Star Fox, il y a un temple qui s'appelle Inari Fushimi, qui est magnifique. Vous imaginez des portes japonaises, des tolis qui sont sur tout le long d'une montagne, c'est vraiment superbe, une très belle montagne. Et le dieu en fait de cette montagne, c'est un renard. Mais alors le renard, en fait, il est le dieu de quoi ? Il est le dieu en fait du succès tout simplement.
D'accord.
C'est-à-dire que tous les Japonais qui vont là-bas, il y a des renards un peu partout en statue, en gris-gris, enfin il y a des renards un peu partout sur cette montagne. Et les gens en fait de Nintendo, quand ils ont lancé ce jeu, ils se sont dit bon, c'est une nouvelle licence, il faudrait quand même que ça marche. et ils sont donc allés prier une ou deux fois pour se dire bon allez, il faut que ce jeu cartonne. Et c'était un renard, donc en fait pour accentuer en fait cette chance et que le jeu marche bien, ils ont tout simplement décidé bon le personnage ce sera un renard. Exactement.
Putain, merde, est-ce qu'on pourrait caser un renard sur Gameblog et aller prier pour
Alors, heureusement que c'était pas une grenouille ou un truc comme ça. Ouais. De succès.
La grenouille elle y est quand même.
La grenouille elle est là, c'est l'un de ses équipiers. Okay.
Heureusement que c'était pas un cafard.
Star cafard.
Star Beetle.
Star Beetle, pas mal, ouais. Ça pourrait marcher. Donc voilà,
du coup, dans les vidéos, ça marche jamais. Enfin, du super renard chenapan, forcément. C'était donc effectivement quelque part un peu mystique, donc.
Ouais, c'est totalement mystique. Et maintenant, c'est vrai que visiblement, enfin maintenant, c'est devenu une tradition. Mais à chaque nouveau Star Fox développé par les équipes japonaises, il y a une sorte de petit pèlerinage qui se fait dans le temple, bon, qui est pas loin, qui doit être à 500 mètres en fait des studios. Donc, moi, je conseille en fait à tous les touristes japonais qui vont à Kyoto de se rendre dans ce temple qui est non seulement très beau, puis en plus qui est chargé d'une symbolique jeu vidéoesque qui est sympa, quoi.
C'est un super temple. Et donc voilà, Star Fox 2 aurait pu voir le jour puisqu'il a été quasiment fini en fait. Il y a même des versions, il y a des vidéos qui traînent un petit peu sur le net, des versions qui existent mais qui plantent assez régulièrement en émulateur. Bon, il était bien avancé mais enfin finalement pas eu le lancement de ce jeu, probablement parce que la Nintendo 64 était en train d'arriver et à l'image de ce qui s'est passé pour Super Mario FX, ils ont préféré passer à l'étape suivante directement. Je me tourne vers toi, Julio, parce que dans les grandes séries qui ont malheureusement aujourd'hui connaissent pas trop de suite, mais qui ont vraiment marqué à l'époque, il y avait Actraiser.
Ouais. Ah, Actraiser, ouais, ouais. Enfin, grande série, je sais pas si c'est une grande série, en tout cas le premier c'est un grand jeu. Mm. Le deuxième j'ai pas aimé parce que c'était devenu un jeu d'action, mais en gros... Le premier Actraiser, ça a été une méga baffe à l'époque pour moi parce que...
Une super baffe, s'il te plaît.
Voilà. Pardon, je suis désolé.
Sois dans la thématique.
Non, parce que t'avais une toute petite partie de gestion. Enfin, c'était pas vraiment de la gestion, mais tu jouais le rôle d'un dieu. Et t'avais le mode 7, justement, à chaque fois que tu plongeais dans un niveau qui faisait tourner la caméra comme ça. Et puis, c'était un jeu d'action avec des éléments de RPG. Et puis, c'était génial, quoi. Les musiques étaient... fantastique. D'ailleurs, je pense que t'as le CD, forcément.
Ah bah dans des blind tests, hein, on a mis quelques extraits parfois. De
donc ouais, Actraiser, pas une grande série, mais alors un grand jeu, quoi. Un grand jeu de la Super Famicom qui est sorti d'ailleurs. Bah ça fait partie justement de ces jeux dont je te parlais tout à l'heure, qui sont sortis juste après donc le lancement de la console au Japon.
Est-ce que quelqu'un veut parler de Pilot Wings dans un genre radicalement différent?
Ah ouais, moi je veux bien. Enfin, bah, Florent, il
Moi, c'est mon premier jeu, j'ai adoré, ouais. Mais c'est vrai que j'ai pas grand chose à raconter.
Alors, resitue un petit peu ce que c'était.
Pilot Wings, en fait, c'est une expérience de pilotage utilisant à fond en fait les capacités de rotation, de zoom et de mode 7 de la Super NES. Et donc,
il fallait passer ton brevet de pilote, c'est ça?
Voilà, exactement. Donc, il y avait différentes épreuves. Il y avait donc déjà le Delta Plane, par exemple, où on pouvait passer différentes épreuves.
Parachute,
et puis après, il y avait le biplane. Enfin, il y avait différents types d'appareils. Et les sensations étaient tout simplement géniales. L'ambiance était aussi vraiment fabuleuse. Il y avait une musique d'ambiance qui était très, très sympa. Enfin, c'est devenu
c'était
en fait un petit jeu,
quoi, mais super, super sympa, quoi.
Ouais, vraiment très fun.
Moi, je me souviens l'avoir regardé.
C'était vraiment très bon.
À l'époque, je me souviens quand même l'avoir regardé avec un peu de curiosité.
C'était hyper original.
On se demandait un petit peu c'était quoi vraiment le jeu en fait du truc là-dedans, quoi. Mais bon.
Bah, en parachute, il fallait atterrir sur une cible mouvante ou pas en fonction
de
la
taille. Il fallait passer dans des anneaux.
Ouais. C'est assez amusant de voir que c'est une série qu'en fait Nintendo a l'air d'apprécier assez, même s'ils sortent pas de jeu. Hein, mais elle est toujours là en démo technique lors d'un lancement d'une nouvelle machine. Et à chaque fois, on se dit il va avoir un nouveau Pilot Wings. Et puis,
les démos de la Wiimote d'ailleurs, c'était avec un. Ouais. En fait, tu devais prendre la manette dans la main et comme tu prends un petit avion en papier, quand tu es à l'école, là, tu vois. Et faire bouger un avion comme ça dans des petits anneaux.
Et puis ils ont fait quand même Pilot Wings 64.
Et il y a Pilot Wings 64 qui était bien.
Qui était même encore sympa, meilleur. Ouais. Ouais.
Moi j'ai adoré. Moi j'ai pas du tout joué au premier en fait.
qui est arrivé au lancement de la Nintendo 64.
Exactement. Mais qui était vraiment très sympa avec le coup de l'atterrissage sur la cible et tout. T'es bien prise de tête.
Avec son petit jetpack.
Il y avait même aussi, mais là c'était les meilleures épreuves, des petites épreuves de shoot aussi où il fallait atteindre des cibles et tirer sur les cibles et c'était vraiment fabuleux. Et c'est pour ça que beaucoup de gens attendaient en fait un Pilot Wings sur GameCube qui a été annoncé longtemps. On n'a jamais,
venu.
Ouais. Et qui est jamais venu en fait. Et c'est vrai que beaucoup de fans de Pilot Wings ont été très déçus, quoi.
Est-ce qu'il arrivera avec la Wii? C'est une super question. autre titre qui a vraiment marqué les esprits à cette époque. Il y a Ghouls and Ghosts. Enfin, super Ghouls and Ghosts, forcément. Il était classe, hein. C'était la plus belle version, en tout cas.
Oui, puisque c'était un jeu d'arcade à la base.
Mais vachement, vachement repris, hein, techniquement parlant.
Oui, il a été. Bah, c'était une vraie bonne adaptation, quoi. Mm-hmm. Ils ont bien refait les graphismes.
Avec une difficulté.
C'était aussi difficile que l'original, quoi. Donc,
au secours.
C'était l'horreur.
On rappelle qu'à l'époque, sur la trois quarts des jeux, il n'y avait pas de sauvegarde et sur un Super Ghouls and Ghosts, il n'y avait même pas de code. Hein, donc quand tu meurs, tu recommences à zéro.
Et puis c'était tellement difficile que tu recommençais quoi qu'il arrive 10 fois de suite.
Angel.
J'ai fini.
En arcade, j'ai arrivé au sixième niveau avec un crédit.
Pas mal.
Franchement, respect. Parce que c'est
il y avait combien de niveaux à peu près qu'on se resitue?
Ah, mais je sais pas, j'ai jamais pu le finir. attends, les gars. Oh, un crédit, tu vois, c'est pour ça, une pièce, mec.
Classe.
Justement, t'as pas réussi à le finir parce qu'en fait, il y a deux fins. Il y a une fin en fait à la Mario World, c'est-à-dire que quand t'arrives à la fin du dernier niveau, en gros, t'as une princesse qui te dit désolé, la princesse est dans un autre château, et que la vraie fin de Super Ghouls and Ghosts, en fait, c'est il faut faire le deuxième tour.
Ah, c'est
et
ça.
Alors là, c'est encore pire. Mais en fait, il y a très très peu de gens qui ont pu voir la vraie fin de Ghouls and Ghosts. Ouais.
Mais genre, elle est chambée, il y a de la 3D, il y a une cinématique en image de synthèse, il se passe quoi?
Non, pas du tout. Non, c'est-à-dire que quand tu fais le premier tour, quand tu as terminé les 7 ou 8, j'en sais rien, t'as dû aller assez loin, et ben la princesse que tu es censé délivrer, et ben, en fait, c'est pas elle. Il faut refaire un deuxième tour pour délivrer la princesse.
Rappelle, avec l'espèce de boss de fin là, dans son château, il y avait plusieurs écrans pour le voir en entier, il fallait monter, il te glaçait. Effectivement, ça m'appelle vaguement quelque chose.
Il était sur son
son fauteuil, c'était, enfin, c'était genre Super Satan, quoi.
Ouais, c'était un Super Satan.
Ah, mais ça faisait flipper,
non,
il était énorme.
Non, mais là où c'était super dur, en fait, c'était des séquences, c'était du par cœur, en fait. Ah, mais il fallait vraiment tout connaître par cœur.
Tout à l'époque, mais celui-là, tu claquais un paquet de
thunes. C'était même pas un jeu de réflexe, c'était un jeu de par cœur. Il fallait que tu saches exactement où allait apparaître l'ennemi, etc.
Ah, bah c'est simple, si tu commençais à perdre, genre, ne serait-ce que la moitié d'un début de vie au quatrième niveau, tu disais, je recommence. Je préfère recommencer parce que ça sert à rien de continuer.
Sauf quand t'es en arcade, là, tu peux pas recommencer. Et c'est là que le challenge devenait intéressant. Moi, j'étais pas un petit joueur comme vous, les enfants.
Donc ça, c'était effectivement de très bons souvenirs.
Est-ce qu'il y a d'autres licences d'éditeurs tiers qui sont parus aussi sur qui sont nés sur Nintendo? Je pense à Harvest Moon, qui a eu quelques épisodes par la suite et qui était aussi un jeu un peu original où, dans un contexte où tu qui est, je sais pas trop comment le décrire en fait, une sorte de RPG où tu t'occupes de ta ferme où il se passe.
Ah bah, t'es un fermier, hein.
Oui, voilà. Ouais, ouais. Donc,
tu traites la vache, tu vas pêcher du poisson.
Voilà, il y a Breath of Fire aussi qui a débuté. Ouais. Donc il y a eu deux épisodes sur Super NES.
Capcom qui a toujours été un éditeur très poli envers ses joueurs, puisqu'à chaque fois il y avait ce Thank you for playing. Ouais. Chaque fin de jeu Capcom, c'était incroyable.
Exact.
en
gros, merci. Enfin, tu vois, ça fait un peu merci pigeon. Merci pour ton pognon.
Ouais, mais généralement, on passe à des bons moments avec leur jeu quand même.
Ah. Bon, enfin bon, enfin, merci d'avoir joué, ok, super.
Ils étaient super polis. Ma maman aimait bien quand elle passait, quand je finissais à jouer Capcom, elle me disait, ah, ils sont sympas eux. Parce que je comprenais pas Thank You for Playing à l'époque.
Et c'est pour ça, c'est pour ça qu'aujourd'hui tu en reparles, parce que ta mère t'a influencé.
Ça m'a marqué. Non, mais c'est vrai.
D'ailleurs, ça fait partie des rares trucs que tu comprends en anglais maintenant.
Mais il y a d'autres très bons jeux qui
Wrath
sont sortis.
Wrath of the Lich King. Voilà, oh, merci.
Bravo, bravo.
Merci.
Et moi, je pense notamment à Axelay, par exemple, un shoot qui a marqué hein, quand même.
Avec la lave.
Il y avait des niveaux où tu allais en profondeur dans l'écran.
Ouais. Exactement, ils avaient fait un espèce de système de rotation du scrolling, enfin qui te donnait l'impression d'être sur un espèce de tube et te donnait l'impression de tourner autour de la planète. C'était assez sympa.
Et ben, c'est, si je dis pas de bêtises, c'est celui-là où ils ont commencé à les taper dans la puce sonore justement pour faire les collisions, etc. Parce que la console, elle en pouvait plus là.
Ouais.
Et quand il y avait trop de trucs à l'écran avec tous les petits missiles, ça ramait. Enfin, le jeu ramait de toute façon. Mais s'ils n'avaient pas utilisé la puce sonore, c'était pas possible. Voilà.
Ouais, Axelay, effectivement,
tout à l'heure, je voulais le dire, sortir ma science, mais je me rappelais plus du nom.
C'est comme UN Squadron, hein, qui était vraiment bien aussi.
Super beau, ouais.
Ouais.
Avec aussi on pouvait faire évoluer son armement, on achetait des nouveaux avions.
Secret of Mana, Julien.
Oh là, Seiken Densetsu 2, hein, Secret of Mana, extraordinaire, une quête de l'épée sacrée, tout simplement fantastique, avec aussi l'utilisation du mode 7 sur la carte quand on avait son espèce, je sais pas comment s'appelle cet instrument là qu'on doit tourner et qui a une sorte de petit tambourin, non, un petit tambourin avec deux fils et deux petits trucs qui fait cloc cloc cloc, voilà, CAF limite bien. Bon, et ça appelait Flammy qui était ce dragon qui venait. C'est pas Flamme Flamand, non, Angel. Donnez un micro, Angel, je vous en prie. dans ce genre de moment, il en a besoin. C'était génial. Et en plus, on pouvait jouer à deux. Et ça, c'était pas mal pour un jeu d'aventure. C'était coopératif. Ça, c'était d'ailleurs, la Super Nintendo, si je puis me permettre, c'est quand même l'âge d'or atomique de Square Enix. Enfin, de Square à l'époque, tout court.
Et du RPG même en général, d'ailleurs.
Et de Enix aussi, avec les Dragon Quest, bien sûr.
Ouais.
Mais alors, il y a eu Soul Blazer aussi. Quel grand jeu que Soul Blazer.
C'est marrant parce que moi, mon histoire avec la Super Famicom, elle est marrante. Parce que donc, en achetant la console, je voulais évidemment l'acheter avec Mario. Mais sauf qu'il n'y avait plus Mario. Et j'allais toujours l'acheter chez un Japonais qui avait une toute petite boutique à rue de Rennes. J'allais acheter mes jeux là-bas, avec liste d'attente, machin et compagnie. Et donc, il n'y avait pas de Mario. Donc, mon premier jeu sur Super Famicom, c'était Goemon. Et c'était un grand jeu.
Mais toi, parce que tu as acheté ta Super Nintendo, avec quel jeu?
Parce avec Goemon.
Mais parce que c'était livré avec Super Mario, hein, c'est ça?
Non, mais moi, je parle de la Super Famicom. Moi, j'ai...
Merci, en vous remerciant. Bah, si on n'écoute pas, qu'est-ce qu'on peut devenir?
Alors. Donc, ma Super Famicom, j'ai acheté donc avec Goemon, un très grand jeu. Le premier jeu à avoir intégré des tonnes de mini-jeux à l'intérieur. C'était délire. Enfin, c'était génial. Goemon, super. Et du coup, moi, quand Zelda est sorti, j'ai voulu acheter Zelda, évidemment. Et je suis allé dans cette même boutique et j'ai dit, voilà, je vais acheter Zelda. Il m'a dit, bah non, j'en ai plus. Et le mec, pareil, il m'a recommandé un autre jeu. Et
pourquoi t'es chez ce mec? Il avait jamais les jeux. Moi, j'ai jamais eu de problème.
Mais du coup, il a découvert Super Nintendo. Je jouais en import et c'était chaud pour les
amis. Donc, c'était Soul Blader pour toi.
Et donc, c'était Soul Blader. Il m'a filé Soul Blader à la place. Et j'ai. Si, c'est Soul Blader en japonais. Je l'ai encore chez moi, devant mes yeux. Là, je le vois là.
D'accord.
donc, Soul Blader, j'ai fait Soul Blader à la place de Zelda. Quoi. Et c'était pareil,
extraordinaire. Ça, c'est un jeu Enix.
Bah ouais, d'ailleurs, il y avait plein de gens qui pensaient que c'était Actraiser
2 ou
oui, c'est ça.
Parce qu'il y avait des sons en commun, machin, etc. C'était un jeu Enix aussi. Et c'était un peu sur la même thématique de reconstruction des villages et tout.
Bah ouais, parce qu'à chaque fois, il y avait les âmes qui étaient. On arrivait dans une zone qui était complètement désertée, puis on rentrait dans des niveaux, et puis on récupérait des personnes qui venaient réhabiter dans la zone principale, et puis on découvrait d'autres trucs. Enfin, c'était génial. Ouais.
Sur Super Nintendo,
vas-y. Non, je t'en prie.
Sur Super Nintendo, c'est aussi la première fois qu'on a eu Bowser et Mario dans le même camp, qui œuvraient ensemble avec Super Mario RPG.
C'est vrai. Ouais, qui était un jeu de Square.
Ouais, et c'est qui a donné plus, enfin qui a été décliné aussi un petit peu plus tard, qui a donné du Super Paper Mario, etc.
Tout à fait.
Mais parmi les, on parlait du mode 7 tout à l'heure, et parmi les grosses claques du mode 7 quand même, il y a deux jeux fantastiques. C'est Contra 3.
Oh là là.
Et donc il s'appelle Super Probotector en France, je crois.
Ouais. Non, aux États-Unis. Si, c'est ça. Ouais, en France aussi. Ouais. Et en France, c'était donc des robots.
Voilà. Ah oui, voilà.
Tout moche.
Ça, franchement, les trucs qu'ils faisaient à l'époque, c'était n'importe quoi. C'est comme les changements de nom, les machins et tout.
Enfin, bref. Explosion nucléaire au début dans le générique. Pff, ça tuait.
Non, mais attends, les. Et puis t'avais un niveau sur deux où je sais plus c'était la fin des niveaux où c'était vu du dessus et t'avais des zooms comme ça qui tournaient et t'avais une araignée géante qui sautait au plafond.
Ça fait flipper.
Putain, c'était hallucinant et tu pouvais
t'avais
jouer
une lance-flamme, c'est la première fois que j'ai kiffé un lance-flamme.
Ouais, et donc attends, j'ai pas dit le deuxième. Et le deuxième, Castlevania 4.
Ah ouais.
Putain, Castlevania 4.
C'était avec... super.
Non, parce qu'Angel il a fait sa tête genre oh les vieux cons.
Et Castlevania 4 avec cette fameuse scène du lustre, machin et tout. Putain,
du lustre où c'est carrément tout le décor qui tourne autour de soi et non pas soi qui tourne dans
les
le décor.
Qu'on vous a perdu là quand même.
Ouais, c'est pas grave.
Ils sont partis.
Tu l'as évoqué Julo tout à l'heure. Mais...
J'ai envie de citer encore juste un autre truc parce que ça c'est pareil, c'était toujours dans cette même boutique. J'étais sur une liste d'attente pour la sortie de Street Fighter 2 parce que quand même, il faut le rappeler, la sortie de Street Fighter 2 sur Super Famicom c'était.
Ah bah c'est la révolution.
Le craquage d'un paquet de tirelire.
Ah c'était un événement, mais c'était énorme quoi. Et moi j'étais effectivement sur une liste et pourtant j'ai acheté la cartouche 900 balles
voilà.
J'étais sur une liste avec je sais pas combien de mecs devant moi dans cette petite boutique sur le balcon. Et le jour où je l'ai eu, je me rappelle avoir sauté à pieds joints dans la rue et en brandissant la cartouche et tout. J'étais
et tu l'as cassé.
Non, même pas.
Non, mais justement, tu parles de prix, mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que plus on avance dans les années avec la Super Famicom, c'est plus les prix sont chers en fait.
Oui, c'est ça.
Mais parce que la taille des cartouches augmente aussi.
Exactement. Et puis
le prix de la mémoire, le prix des EEPROM, donc c'est les puces qui stockaient les programmes, c'est très cher. Quoi.
Et le premier jeu en fait a dépassé les 10 000 yens, ce qui était une folie à l'époque. C'était Final Fantasy V, je crois. Et nous en France, on a eu des premiers jeux, je crois que c'était 490 francs quand même. Ça fait combien en euros ça, 490 francs maintenant?
Non mais attends, il y en a même eu à 550 francs.
Ah oui, parce que les prix augmentaient en fait.
Ouais, ça a commencé à 450 francs et les jeux Nintendo, on va dire, étaient 390 francs.
Ouais.
Et puis après c'est 450 et puis après ça a fait jusqu'à 550 je crois. Donc Quelconque Country, oui, il était... Non, c'était un jeu Nintendo donc il était pas si cher que ça. Mais d'autres étaient bien plus chers.
C'était pas le premier jeu avec une cartouche 32 mégas d'ailleurs, Super Street Fighter 2? Je sais plus, enfin bref.
Je sais pas, mais en tout cas, ce qui est assez, et c'est quand même assez révélateur aussi de la philosophie même de Nintendo, hein, puisque justement Nintendo qui combattait un peu la violence dans une certaine mesure, Street Fighter c'est quand même assez violent, ils l'ont accepté, et plus qu'accepté, le jeu était carrément livré en bundle, et c'est d'ailleurs le bundle qui a remplacé la console et Super Mario World, c'est devenu, à la sortie de Street Fighter, Super Nintendo plus Street Fighter, avec une version européenne écrasée.
Qui était toute pourrie.
Et toute pourrie, voilà.
Mais c'est celle que j'ai achetée.
Maintenant on peut vous le dire, il n'y avait pas de code. Il n'y avait pas de code pour débloquer les boss. Non, il n'a jamais existé.
Raconte un petit peu, Angel, ce qui s'est passé au Steam.
Il y a la légende urbaine quand il est sorti du. Parce qu'un an plus tard, si je me souviens bien à peu près, un an plus tard, il est sorti. Le Street Fighter est sorti sur Mega Drive. Et lui, c'était le 2 Prime Turbo, donc avec tous les boss. Et pendant what milliards d'années, il y a eu une vieille légende urbaine qui voulait donc qu'il y ait un code. Genre ABBBBA qui débloquait les boss.
Parmi vous, là, combien ont passé des heures à essayer de rentrer ce code?
Et ce qui est important, c'est que, bon, alors maintenant le hook, c'est duré à peu près une semaine, le temps que tout le monde s'en rende compte avec Internet, mais comme à l'époque, il n'y avait pas Internet.
Il y avait ce qu'on appelait la cour d'école.
Il y avait, voilà, le bouche à oreille, c'était n'importe quoi, le téléphone arabe, si, je te jure, non, machin, j'ai mon pote qui l'a vu, etc.
Il y avait toujours un mec qui l'avait vu.
Il y a toujours un pote qui te dit si, moi, mon frère, il le fait, tu vois, n'importe quoi. Et donc, ça a marché.
Parce qu'en plus, dans les magazines, donc Joypad, notamment, il y avait les poissons d'avril qui disaient voilà le code pour Street Fighter machin.
Et avec photo à l'appui d'ailleurs.
Ouais ouais ouais, exactement, photo truquée à l'appui et tout. Et je me rappelle que Candy d'ailleurs l'avait refait pour Tekken, je sais plus quel Tekken, avec un code mais juste mais impossible qui faisait 5 clés.
Je crois qu'il avait même rajouté des touches qui n'existaient pas, ouais, genre sur la PlayStation,
genre il fallait le faire pendant la cinématique d'intro selon Candy, au moment où les yeux de Kazuya deviennent rouges et ça dure un quart de seconde.
Et faut bien voir que c'est pas lui qui s'appelle courrier des lecteurs après cet enfoiré. Hein.
Enfin bref, et donc ouais, c'est ça, en fait il y avait des poissons d'avril avec les codes de Street Fighter 2. Quoi.
Mais c'est une légende urbaine qui a tenu pendant longtemps, quoi, des années, hein, je dirais.
Ouais, clairement. Voilà. On l'a évoqué tout à l'heure, Julo, très rapidement, mais il y avait aussi le fameux Zelda, Link to a Past, hein, tout simplement fantastique.
Simplement génial, ouais.
L'un des tout meilleurs de la série.
Moi, je me rappelle le gros choc, j'avais pas fait d'autres Zelda avant, mais de toute façon, ils n'étaient pas aussi énormes avant. Et moi, mon choc, ça a été de constater au fur et à mesure que j'avançais la profondeur, la durée de vie du jeu. J'étais juste mais halluciné, et puis j'étais trop pris par la caisse. J'ai pas arrêté de jouer, quoi. C'était vraiment un très très grand moment, Zelda, sur Super Nintendo.
Clairement.
Il y a eu d'autres jeux.
On finit avec.
Quelqu'un se souvient de Lost Vikings, par exemple ? Ça vous dit quelque chose ?
Moi, ça m'avait pas.
Ça lui dit quelque chose. C'est un jeu, en fait, avec. Donc, trois Vikings.
Bah, c'est Blizzard, déjà. Ça s'appelait pas Blizzard à l'époque.
C'était Silicon and Synapse.
Exact. Ouais.
Et à l'époque, ils bossaient sur console.
Synapse. Silicon and Synapse.
Ouais.
Putain, ils allaient se faire chier pour les noms, quand même.
Ah, bah attends, ça rigole.
Oui, d'ailleurs, ils l'ont changé. Hein.
Bah, c'était les deux. C'est des jeux. Parce que moi, en fait, la SNES, je l'ai eu très, très tard. Et j'ai joué donc à Lost Vikings et à Rock'n'Roll Racing. Qui avait des musiques digitalisées avec des vrais sons de guitare, un truc révolutionnaire à l'époque. Et Lost Vikings, c'était bien prise de tête, hein, parce que c'était un jeu d'énigmes qui a bien bien marché. Et je fais partie des gens qui ont joué à des jeux où les gens avaient déjà switché, en fait, parce que quelqu'un se rappelle de Uniracer ?
Non.
Ouais. Un petit peu.
Alors là, c'était un jeu super speed en fait. Je crois que c'est un des jeux les plus rapides qui est sorti sur la console, avec les scrolling en tout cas sur Super Nintendo qui étaient les plus rapides. C'était une course d'un petit monocycle.
De monocycle, ouais. Mais c'était assez rigolo. Hein.
C'était super technique en fait comme jeu. Il fallait tourner au bon moment, etc. C'était sur plusieurs plans. Enfin, c'était sur un plan mais dans plusieurs directions. Et je me rappelle qu'on a fait péter les chronos et c'était les jeux vraiment de la fin, quoi. C'était en 94. Donc c'était déjà. On amorçait le switch vers la génération d'après, quoi. Mais bon. On n'a pas parlé de Device, mais peut-être qu'on en parlera après.
De qui ?
De Device, tu sais, des trucs pour tester plein de jeux.
Oui. c'est ce qui va arriver, genre là, quand on aura bouclé le tour incroyable de ces jeux. Est-ce qu'il y a certaines personnes...
Oui, j'en mentionne un dernier, Ogre Battle.
Ogre Battle, ouais.
C'était quand fantastique. Un des ancêtres de Tactical, genre des Final Fantasy Tactics,
premier,
qui
d'ailleurs.
Se sont beaucoup, beaucoup inspirés d'Ogre Battle. Ouais.
Ah, bah, complètement, ouais. Oui, puisque c'est l'équipe même de... C'était Quest à l'époque, et qui a été débauchée en partie pour faire le Final Fantasy Tactics.
Tactics, voilà, qui était un grand jeu.
Extraordinaire, Angel.
Il y avait Ultraman aussi.
Qui lui était ultra pourri.
Il était pas super d'ailleurs.
Est-ce que vous vous souvenez à l'époque des jeux THQ ? Et de ce qu'était THQ
non,
à l'époque ?
Non, vraiment pas.
Ils n'ont sorti à l'époque que des bouses. C'était l'éditeur de la honte à l'époque.
Ça a changé ?
C'était pire que Cryo.
Ah oui, c'était juste incroyable. Incroyable. À l'époque.
Parce que c'était vache que Cryo avait sorti
les
bouses.
On voyait
les
jeux THQ arriver, on rigolait d'avance. D'accord. C'était juste horrible.
Non, mais. Parce
que la politique THQ, alors maintenant avec des bons jeux, donc genre WWE, Stalker et compagnie, donc les bons jeux, c'est un truc qui date de 10 ans à peu près, où il y a un mec qui a tapé du poing sur la tête et il dit bon, alors on sort des jeux de merde, ok ils se vendent, mais ce qui serait bien, ce serait de vendre des jeux qui soient bien. et donc en gros, et si on débloquait du budget pour que les mecs arrivent à faire des bons jeux. Et c'est comme ça qu'ils ont décidé de faire des bons jeux.
c'est plutôt incroyable.
L'histoire des bons jeux par Angel. C'est fantastique.
Faudra en parler à Tashu là, parce que je pense qu'au niveau vérité historique, t'es très fort. T'es très près de la vérité.
Bon, et pour conclure, comment on a oublié Final Fantasy VI, le plus grand des Final Fantasy à titre personnel et à titre de beaucoup de millions d'amateurs de RPG japonais, bien évidemment.
Et le dernier volet sorti sur Super Nintendo, puisque le set qui avait été commencé dessus a glissé un switch chez Sony.
Enfin, il a commencé la Nintendo 64, ouais. En tout cas, bien évidemment, il y en aurait plein, mais alors plein d'autres. Hein, mais vous allez pouvoir, vous, en parler dans les forums. Bien sûr, quels sont, vous, les titres qui vous ont le plus marqué sur la Super Nintendo ? En gros, il y a plus de 600 titres hein, qui sont sortis sur Super Nintendo, en tout cas aux États-Unis et en Europe. Et je crois que c'est beaucoup plus au Japon, Florent.
Ouais, je crois qu'officiellement, c'est 1388. Mais ouais, après, il y en a entre 600 et 800, on n'est pas tellement sûr pour la Super NES et Super Nintendo. Mais Ouais, ça fait pas mal de jeux.
Ouais, ça fait
pour la machine de l'époque, c'est pas mal.
Ouais. Ouais. Il y a même eu, je crois, aussi l'émergence de jeux érotiques sur console de salon.
Oui, je suis pas certain que c'était très très officiel. En
non,
fait,
non, hein. C'était absolument pas officiel. Hein.
Mais il y a des gens qui ont dû fabriquer certaines cartouches un peu sous le manteau. Oui.
Bah justement, parlons-en et on va conclure ce podcast avec trois dernières informations essentielles. C'est aussi l'émergence vraiment d'un entre guillemets piratage un peu de masse, mais organisé
pour
les consoles, mais organisé autour de trucs très très bien calés. Hein,
c'était une industrie, la console étant un succès monstrueux, évidemment les prix des cartouches étaient hyper chers. Forcément, il y avait un marché pour aller pirater, et du coup, il y a des mecs qui ont sorti donc des adaptateurs pour faire lecteur de disquettes en fait, avec ça se mettait sur la console et
sous la console.
Non, sur la console.
sous la console. Ah, il y en avait aussi sous la console.
Ouais, mais il y en avait un. Enfin, le modèle qui était le plus vendu en France en tout cas.
C'est le Super Docteur, c'est ça
je sais plus comment il s'appelle. Tiens, le mien, c'était pas Super Docteur, c'est encore un autre truc. Mais en gros, c'était tous à peu près les mêmes modèles, sauf qu'ils étaient packagés.
Et officiellement, c'était pour faire des backups des cartouches.
Voilà, et alors on mettait sa cartouche, on mettait une disquette, ça backupait magique la cartouche sur la disquette, et après on pouvait refiler la cartouche à son pote et garder le jeu. Quoi.
Ou aller les louer, ou.
Voilà, et surtout, c'était le début des envois par colis-poste de toutes les paquets de disquettes entre potes.
Ouais. On rappelle que c'était, bien sûr, non officiel.
Il y a un truc qui est en train de ressurgir de ma mémoire, parce que oui, honte sur moi, j'en ai eu un truc comme ça, et ça m'a dégoûté. voilà, bref. non, c'est pas ça, c'est que j'ai une question technique en fait que je me posais à l'époque, et là c'est en train de revenir, et t'es là, Caf, en face de moi, tu vas y répondre. C'est trop bien.
Vas-y, j'ai peur.
Pourquoi est-ce que quand on faisait un trou en haut à droite d'une disquette, elle était considérée comme plus contenante?
C'était les doubles densités, les simples densités.
Non, mais
ça n'a
dire...
rien à voir avec la console en attendant.
Mais non.
Du coup, on va peut-être en parler tout à l'heure parce que je suis
mais
pas
non,
sûr
mais si,
que ça
a à voir parce que le machin docteur là, il fallait mettre les jeux sur disquette et ils tenaient
cartouches...
sur deux disquettes, et quand tu perçais un trou sur la disquette, le jeu tenait sur
une seule disquette.
Disquette,
parce que dans un cas, elle faisait 720 kilooctets, quand tu faisais un deuxième trou, elle faisait 1 méga 4.
D'accord, donc on fait un trou et puis vous avez plus
sauf
de mémoire.
Oui, mais donc moi j'explique en mots simples hein, parce que la technologie avec Julo faut...
Essaye dans un disque dur, franchement moi j'ai déjà fait ça avec le mien de 400 gigas, mec, ça marche vachement bien.
Essaye avec une perceuse pour aller plus vite, tu vois, parce que j'enchaînais quoi. Je voulais avoir tous les jeux moi, tu vois.
Non mais alors la vraie raison, c'est que c'était en fait les détecteurs de l'époque, c'était que ça permettait au lecteur de savoir si la disquette c'était une simple ou une double densité, et
était double, mais
non, mais en fait justement, s'il fallait les simples densités étaient vachement moins chères, donc ce qu'on faisait c'était ça, sauf que les disquettes elles avaient une durée de vie super moindre, parce qu'évidemment les simples densités, le disque magnétique qui était dedans était de moins bonne qualité. Sauf qu'au bout d'un moment, les mecs avaient des tels volumes qu'ils ne se sont pas fait chier à faire deux qualités de disques. C'était les mêmes disques à l'intérieur des disquettes, et puis ils faisaient des samples.
C'est une arnaque gigantesque alors.
Bien sûr.
Et ben, je ne me suis pas fait avoir. J'ai fait des trous moi.
Mais t'inquiète pas, il y a plein de mecs qui ont fait des trous avec des trucs vraiment bas de gamme, et ça ne marchait pas très bien en fait. Hein.
Poinçonneur, okay, c'est un avenir.
Florent. Il y avait des trous trouteuses même.
Des trous trouteuses Super Nintendo, c'est extraordinaire. Florent, on va à peu près conclure ce podcast avec deux choses. On va se garder la PlayStation là-dedans. Allez, deux minutes maintenant. Vous saurez tout sur la PlayStation et la Super Nintendo, vous allez voir, c'est intéressant. Mais avant ça, quelque chose d'assez intéressant et que peu de personnes savent, c'est qu'il y avait un modem avec la Super Nintendo au Japon.
Oui, avec Raon, on voulait parler, c'est vrai, un peu du modem, en fait, parce que c'est assez inconnu. Un modem, en fait, qui est sorti au Japon, qui s'appelait X-Band. Et en fait, ça a duré.
Il est sorti aux États-Unis aussi.
Il est sorti aux États-Unis aussi.
Ouais. Enfin, ça c'était un modem type RTC qui permettait déjà à l'époque de jouer contre d'autres joueurs.
Ouais.
Il y avait des tournois qui étaient organisés, etc.
Je précise, on pouvait jouer à Street Fighter du coup en réseau.
C'était en gros, ouais. Super Street Fighter 2.
C'est hallucinant.
Et bon, c'est un service qui a commencé en 96 en fait, donc vachement tardivement. Et bah, il suffisait en fait, c'était un service un peu comme Internet autrefois, quoi. Il fallait avoir un modem, brancher ça sur sa ligne. Mmh. Et ensuite, en tout cas au Japon, on allait acheter des cartes prépayées pour se connecter au service. Donc non seulement il y avait le prix de la carte prépayée, puis ensuite il fallait payer la communication.
Et ça c'était le 5 giga au Japon, c'était le
5 giga.
Non, c'était le truc radio là dont tu
parles. Le Satellite View, ça c'est après. Le Satellite View c'est gratuit. Enfin, donc là c'est là on parle vraiment du X-Band. Et au moment de la sortie du X-Band, il y a eu 3 jeux disponibles et qui marchaient avec. C'était Super Street Fighter 2 au départ. Et ce qu'il y avait de sympa, c'est qu'il y avait des soirées donc d'organisées avec des rankings nationaux. Et
c'était comme des leaderboards quoi, de l'époque en fait.
Oh merde, là, attendez. Il y a trop de mots chelous dans la même phrase, je ne comprends plus. Il y a 5 gigas qui envoient des kilobits par seconde à tout le monde. Ben, c'était Liviu, je comprends
pas. Bon, il y avait le Xbox, c'était pas un truc. C'était, ça, c'était le modem qui est sorti aussi aux États-Unis, qui était fait par une boîte qui s'appelait Catapult Entertainment.
Donc, ça, c'est pas Nintendo.
Non, c'est pas Nintendo, c'est pas un truc officiel. Ça a été organisé par une boîte américaine.
Mais ça marchait très bien et on pouvait jouer à d'autres jeux. Et par exemple, il y avait Excite Stage, un jeu de foot qui était pas mal. En 96, il y avait Panel des Pongs et Puyo Puyo aussi qui était rendu compatible avec ce système de jeu en ligne. Donc Puyo Puyo, ça fait rigoler tout le monde, évidemment. Mais
surtout Angel, visiblement, je ne sais pas pourquoi.
Et avec ce système, on pouvait même chatter, envoyer des mails. Ils avaient donc visiblement, d'après les documents de l'époque, au moins jusqu'à chatter. Bon, voilà, ça fait
au secours.
On est en train de perdre ce podcast. Voilà, voilà. Et donc on pouvait chatter, oui.
On pouvait chatter.
À l'époque.
Ouais.
Et non, t'y mets pas, Florent, je t'en prie.
On t'es seul encore vivant ici.
On pouvait chatter. Voilà. X-Band, 5 gigas. Enfin bref.
Et en fait, il y avait des jeux aussi qui étaient des remakes de titres NES à l'époque qu'on pouvait télécharger. Alors, c'est un peu l'ancêtre
là, on
de.
Un peu tout. Ouais. Parce que,
ça, c'était pas le X-Band. Ça, c'était un autre truc qui est sorti qu'au Japon.
Il y avait deux autres trucs en fait qui pouvaient permettre de jouer à des remixes. Il y avait donc le Nintendo Power, mais je pense qu'on en parlera pas trop. Enfin, c'est, pour faire rapide, c'était un système de téléchargement un peu comme le Disk System à l'époque. On allait dans ce qu'on appelait un convenience store qui s'appelait Lawson. Et il y avait des petites bornes en fait qui permettaient d'acheter des tickets de cinéma, de machin. Et il y avait une encoche où on pouvait placer sa carte. Super Famicom qu'on achetait en fait avant, qui était en fait 32 mégas,
mais qui était une spéciale. Autant elles étaient toutes de base grises, autant celle-là était blanche, je crois, justement pour
je crois
bien noter
la même couleur. C'est l'étiquette qui était effectivement blanche peut-être, pour qu'on puisse marquer les jeux dessus. Et on pouvait en fait télécharger des jeux pour beaucoup moins cher, entre 1000 et 2000 yens. Et il y a un paquet de jeux en fait qui ont été édités, par exemple Super Punch Out, qui est jamais sorti en cartouche au Japon. Il est sorti en fait sur Nintendo Power. Il y a une centaine de jeux qui sont sortis comme ça, et aussi tous les Picross notamment sont sortis avant tout sur ce Nintendo Power. Donc c'était un système de téléchargement pour aider en fait à recycler les derniers jeux en fin de vie des éditeurs tiers, parce que plutôt que de prendre le risque en fait les éditeurs tiers de sortir des cartouches alors que la PlayStation et la Saturn sont déjà sorties, ils se sont dit on va faire un système de téléchargement qui permettra de les écouler sans avoir à acheter du matériel, des puces, des machins.
Une première forme de dématérialisation.
Voilà, dématérialisation, et ça permet de jouer à bon marché. Mais là en fait, ce qu'il y a l'autre accessoire qui est assez méconnu en France et qui est pourtant mais génial, c'est le Satellaview. Et le Satellaview, en fait, très peu de personnes le connaissent, parce qu'on sait tous que c'est la réception par satellite de jeux. C'était une machine qu'on posait sous la Super Famicom. Ça coûtait 18 000 yens. On achetait cet accessoire et ensuite, ça ne coûtait plus rien. Et Nintendo a voulu, en fait, quand je disais révolutionner notre manière de jouer, c'est-à-dire que vous imaginez une télévision uniquement dédiée aux jeux vidéo. Alors, on entend par télévision exactement les mêmes capacités sonores. Hein. On entendait des gens qui parlaient, des animateurs, etc.
Il y avait des news qui parlaient des jeux et tout ça.
Exactement. Et en fait, quand on rentrait chez soi, c'était les heures étaient programmées. Hein. C'était pas 24 heures sur 24. Mais au début du service, c'était de midi à 2 heures du matin. Et on entendait, par exemple, une speakerine qui vous disait à 18h, entre 18h et 19h, vous pourrez télécharger la démo jouable de tel ou tel jeu. À 19h, alors là, c'est l'heure de Zelda. Vous allez pouvoir jouer au troisième épisode. Et c'était mais fabuleux. Et
on se resituait quand même à l'époque, quoi, au milieu des années 90.
Et il y avait des émissions aussi radio où ils faisaient des interviews de créateurs, etc. Ils faisaient par exemple participer Takahashi Meijin, etc., pour parler de Bomberman, enfin de tonnes de trucs assez géniaux. Et il faut aussi s'imaginer que c'était un véritable programme de jeux vidéo, et que par exemple entre 18h et 19h, on pouvait jouer à la première partie du remix de Zelda qui s'appelait BS Zelda. Et pendant une heure, on téléchargeait le jeu sur sa carte. C'était malheureusement pas rejouable ensuite, une fois que le service est arrêté. D'autres jeux téléchargeables, on pouvait y rejouer, il n'y avait pas de problème. Mais en tout cas, une heure par jour, on pouvait jouer à un jeu inédit ou à un remix à un épisode. Et par exemple, pour le Zelda, en fait, c'est tout bête. Mais pendant la première heure, vous deviez arriver à trouver la première Triforce. Et pendant que vous jouiez, non seulement les graphismes étaient améliorés, les sons, ça n'avait rien à voir parce que c'était presque du symphonique, ils faisaient venir pour le coup des orchestres.
Ah ouais.
Ouais, et on entendait en fait un speaker derrière qui vous donnait des conseils, qui vous disait « J'ai entendu dire qu'au troisième truc du Nord, il y avait un cœur caché. » Quand vous y alliez, il y était vraiment. Et il y avait aussi des mini-quêtes qui étaient assez fabuleuses, c'est-à-dire que pendant que vous jouiez, il y avait le speaker qui était en fait un vieillard, quoi. Vous imaginez un vieillard qui raconte son histoire.
Le vieil érudit.
Voilà, le vieil érudit. Et qui vous dit, on a un gros problème, la reine des fées, sur le lac, il y avait un lac où on avait retrouvé les reines des fées, a disparu, mais des témoins disent l'avoir vue dans la montagne de la mort. Et là, il y avait une mini-quête qui était évidemment totalement inédite par rapport à ce qu'on pouvait trouver sur la NES. Et là, les gens pouvaient aller chercher la reine fée, la délivrer, dans cette mini-quête, et ça vous rapportait des points. Et ça, ils faisaient ça en fait, il y avait 9 Triforce, enfin il y avait 9 fragments de Triforce à trouver, et ça se faisait en fait sur plusieurs semaines. Et alors tous les lundis, par exemple, vous rentriez de l'école, par exemple, vous disiez à 19h, voilà, je vais faire mon épisode de Zelda. Et à la fin, au bout des 9 semaines, ceux qui avaient réussi à débloquer la Triforce, parce que malheureusement, c'était des épisodes qui étaient délimités, c'est-à-dire que quand vous arriviez à la 3e semaine, vous arriviez directement au 3e niveau. Quoi.
Ouais.
Mais quand vous aviez réussi à trouver les 9 Triforce, vous envoyiez un fax ensuite au système, et là, vous aviez...
ouais. Vous envoyez un pigeon voyageur, et s'il revient pas...
Et vous aviez des cadeaux. Mais voilà, le truc est génial, parce que, bon, là, je vous parle de Zelda, c'est pas très parlant, mais il y avait d'autres systèmes, par exemple, des sound novels, donc des jeux à texte. Là, c'était carrément doublé, en fait, par des vrais animateurs, et pour la petite anecdote, il y avait des émissions qui étaient présentées par Ayumi Hamasaki, qui est une chanteuse assez populaire, je pense que beaucoup des auditeurs connaissent, chanteuse de J-pop. et il y avait des jeux d'enquête, par exemple le Tante Club, qui étaient des jeux à la Conan, et toutes les semaines vous aviez un épisode inédit où il fallait résoudre une énigme, quoi. Et enfin voilà, il faut s'imaginer, de rentrer, de regarder son Urgence ou alors son Les Experts, on rentrait chez
ou
soi
ou bon Lost,
voilà, ou son Lost
21 janvier vidéo.
Ce truc-là, c'était génial.
Mais moi, ce qui m'hallucine, c'est que ça a l'air chouette, etc. Mais alors, un, c'est jamais sorti du Japon. Et deux, aujourd'hui, alors que maintenant, on a tous le net, maintenant qu'il y a soit la Wii connectée, parce que là, on parle de Nintendo, au net, etc., qu'on n'ait plus
personne
ce genre d'expérience.
Personne n'a ressuscité l'idée.
Voilà. Pourquoi ça n'a... Parce que là, normalement, c'était les prémices de quelque chose qui allait se développer. Non, du tout, ça a disparu.
Le online a un peu simplifié les choses. Après, c'est vrai que le concept est un peu différent. Là, ils avaient vraiment une grille. Tous les jours, on arrivait sur, vous imaginez, une ville virtuelle.
C'était géré comme télé, quoi.
Mais là, ça n'existe plus du tout au Japon, ça.
Non, le service s'est arrêté en 2005. Moi, j'ai eu la chance de l'essayer en 98, alors que le service marchait encore. Mais il y avait une ville, en fait, virtuelle, un peu comme celle de Mother. Je ne sais pas ceux qui ont joué à Mother 2 sur Super Famicom. Et au milieu de la place, vous aviez un grand panneau d'affichage avec les annonces. Et puis là, vous aviez le programme télé, quoi, en gros. Et tous les jours, à toutes les tranches horaires, etc. Et il y avait aussi un truc, je termine juste par ça, un truc qui était assez sympa, c'est qu'il y avait aussi des émissions de cuisine. Et les émissions de cuisine, en fait, c'était un Cooking Mama avant l'heure. Et on jouait, en fait, à faire de la cuisine virtuellement. Et tu crois pas si bien dire, parce qu'en fait, le premier jeu de Indie Zero, donc ceux qui sont responsables en fait de Leçon de Cuisine, c'est eux qui faisaient ce jeu. Et c'est d'ailleurs pour ça que Nintendo leur a confié derrière Leçon de Cuisine sur DS. Enfin, voilà, c'était encore l'anecdote de la fin.
C'est quand même assez hallucinant de voir toutes ces choses qui malheureusement ne sont pas sorties de l'archipel Nintendo.
T'imagines aujourd'hui payer des speakerines et des gens pour faire ça et... C'est vrai, il faut être une chaîne de télé, quoi.
Mais à l'époque on le faisait, alors que pourtant c'était des réseaux assez rudimentaires. Hein. Mais bon, allez, on finit ce podcast avec The Anecdote. Alors, elle est plus connue que ce que tu nous as dit, Florent, mais elle est néanmoins assez passionnante pour l'histoire du jeu vidéo en général. Puisque, en fait, si vous retourniez votre Super Nintendo sous la console, il y avait une petite trappe avec marqué « Extension ». Et en fait, elle était prévue à la base, puisque Nintendo avait bien compris que probablement les CD allaient arriver, qu'ils pouvaient apporter... Ils étaient déjà là, et que ça apportait quelques capacités supérieures. Et du coup, ils ont lancé un projet qui s'appelait le projet Super NES CD. Et avec ça, ils s'étaient associés avec à la fois Philips et de l'autre côté Sony, en la personne de Ken Kutaragi, qui leur avait donc créé, tout à l'heure Caf le soulignait, la fameuse puce sonore qui était exceptionnelle pour l'époque, la Sony SPC-700. Et donc, ces trois-là ont travaillé ensemble sur un projet qui s'appelait à l'époque la Super Nintendo Play, plus loin, Station. C'était prêt, tout était bien prêt. Ils devaient d'ailleurs le dévoiler normalement au CES qui se tenait là, tous les ans au début janvier, qui est le plus gros salon, on va dire, de l'hi-fi, du high-tech au monde. Et le problème, c'est que Monsieur Yamauchi, donc le président de Nintendo, quelques heures avant ce salon, découvre le contrat qui devait être signé avec Sony et Philips et trouve les termes du contrat hallucinamment positifs, on va dire, dans le sens de Sony. Du coup, il dit « Je ne signerai jamais ça ». Il pète un peu son plomb à la Yamauchi, un petit peu autoritaire, un peu impérialiste. Et sans prévenir Sony, lors de la conférence Nintendo, déclare qu'il s'associe à Philips exclusivement, Philips et Nintendo, et puis Sony allait vous faire foutre, en gros. Donc la Sony comprend pas trop ce qui se passe, tombe un peu dénue. D'ailleurs, ça explique aussi pourquoi sur le CDI de Philips, plus tard, il y aura les jeux Zelda et Mario qui sont pas faits par Nintendo directement. Hein. Mais on va dire que c'était les relents de cette association. Sony va mine de rien quand même continuer son espèce de projet PlayStation, mais le nom appartenait à Nintendo. C'est ça qui est incroyable, c'est que le nom Play, plus loin Station avec l'espace, appartenait à Nintendo et Sony, entre guillemets, dans leur sorte de joint venture, va revenir auprès de Nintendo pour lui proposer et va se rendre compte, et là c'est de la part de Sony, que finalement le temps est passé et que finalement la Super Nintendo est un peu sur le déclin techniquement et qu'il serait peut-être plus intéressant de se lancer soi-même directement à bras le corps dans le marché du jeu vidéo. En gros, le projet PlayStation, mais cette fois-ci tout bien sans l'espace, est vraiment lancé. La console sort, Nintendo pète un câble, procès. Justement, non, vous ne pouvez pas sortir la PlayStation, le nom nous appartient, etc. Argusie légale, espace, pas espace sur le mot PlayStation ou PlayStation. Finalement, Sony l'a emporté. L'histoire lui a donné raison. Mais en tout cas, ce qui est incroyable, c'est de se dire que la PlayStation aurait pu être une console lié à la Super Nintendo, et que si Nintendo et Yamauchi n'avaient peut-être pas rompu ce contrat, aujourd'hui, bah, ils n'auraient pas eu la PlayStation face à eux. Ils auraient peut-être pu justement continuer pendant cette période entre guillemets disette qui a été la N64 et la GameCube, à pouvoir profiter de la capacité technique que Sony avait à cette époque. C'est assez quand même assez hallucinant. Et juste pour conclure, parce qu'on vous l'a promis en début de podcast, le Super Scope.
Ah oui.
Vous vous rappelez le bazooka, le truc où on visait son écran comme le zapper à l'époque. Il y a eu 9 jeux.
Non, il était.
Il y avait 6 jeux au début et en tout il y en a eu que 9. Donc c'est dire à quel point.
Ceci dit, à travers les yeux d'un enfant, c'était quand même assez fascinant d'avoir un bazooka face à son écran.
Ouais, moi ça me faisait triper quand j'étais môme.
Alors moi j'avais un pote bourgeois qui l'avait, donc je jouais chez lui avec. Et franchement, les jeux étaient quand même absolument ridicules. Hein. Mmh. C'est des petits extraterrestres qui sortaient de cratères, des missiles qui traversaient ton écran, il fallait tirer dessus. C'était super pas précis en plus.
Mais ils ont voulu jouer la surenchère. C'est clair qu'on passe du zapper. Ensuite, c'est pareil, la Mega Drive avait sorti un truc qui était un peu plus gros encore. Mmh. Je sais plus.
Oui, mais plus en forme revolver.
Ouais, mais là, ça donnait un peu plus l'impression d'une mitraillette futuriste. Oui. Et puis bah, Nintendo arrive derrière en disant bah, nous on va faire encore plus gros, donc ils ont sorti le bazooka. Et c'est vrai que les jeux allaient pas avec quoi. Un bazooka, tu tires sur des petits aliens à la Space Invaders, c'est vrai que ça fait bizarre quand même.
Je pense que sur la Wii 2 ils sortiront un tank, genre un tank en plastique à monter soi-même. Ça, ce sera pas mal. Bon voilà, donc c'était un méga flop, hein, un super flop pour le Super Scope. Voilà, c'est néanmoins, ça reste une console mythique, vous l'aurez bien compris, ce qui explique aussi un petit peu la longueur de ce podcast, mais on devait au moins bien ça à la Super Nintendo qui nous aura quand même fait rêver pendant plus d'une décennie, hein, au début des années 90, et qui a été pour beaucoup l'âge d'or un petit peu de Nintendo aussi.
Mon Atari ST, moi.
Voilà, ça a été quand même tant de titres mythiques. Voilà, maintenant vous pouvez en débattre, hein, sur le forum de Game blog.fr, quels sont vos titres préférés, qu'est-ce que vous avez aimé dans cette console, etc. C'est à vous de jouer maintenant. Nous irons voir un petit peu si nous avons oublié des titres, mais forcément c'est le cas, on peut pas parler de tout en une heure et demie néanmoins de podcast. Allez, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un podcast toujours plus fou, incroyable, qui repassera l'histoire du jeu vidéo moderne.
Qui repassera l'histoire, exactement.
Bah oui, tu l'auras compris, sur la table à repasser.
Quelle
la
classe.
Plus célèbre d'internet. Voilà, allez, on se dit rendez-vous semaine prochaine, jouez bien et surtout portez-vous bien. Ciao ciao.
Salut.
Salut.